Europe 1,
18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bonsoir à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver pour votre grand journal du soir. C'est le bon cocktail de l'info, des interviews, mais aussi et surtout vos témoignages au 39-21. La une de l'actualité, une rencontre surprise cet après-midi. Emmanuel Macron à Marseille avec le professeur Didier Raoult. Simple point d'état ou bien adoubement? On en parle dans un instant dans votre journal, Sébastien Krebs. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
18h20, il y a certes la chloroquine du docteur Raoult, il y a beaucoup d'autres tests aussi en ce moment, celui du professeur Lantieri pour utiliser le sang d'un ver marin contre le Covid-19 n'a pas été retenu. Il sera mon invité dans 20 minutes, il nous expliquera pourquoi. 19h10, je recevrai la patronne du Rassemblement National, Marine Le Pen, elle réagira à tout cela, et puis bien sûr à la patronne de la BCE, Christine Lagarde, et sa tribune hier, et puis à 19h30, expérience de confinement, comment cela se passe, je poserai question à Thomas Dutronc, au dessinateur Jules, Ariel Dombal et à l'humoriste Jarry. Voilà pour le programme de ce jeudi soir. On est à vos côtés tous ensemble encore justement dans ces moments-là un peu plus et c'est jusqu'à 20h.
Et vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Le rendez-vous du jour donc à Marseille, déplacement surprise, sans images et sans journaliste. Emmanuel Macron a rencontré en catimini le très controversé professeur Raoult qui défend l'usage de la chloroquine.
Consultation à tout va pour le chef de l'État avant son intervention télévisée finalement reportée après le week-end, lundi.
Où en est-on sur les nombreux essais justement lancés sur tous ces traitements potentiels? Et quand y verra-t-on plus clair? Le docteur Jimmy Mohamed sera là avec nous pour nous éclairer.
Rungis transformé en morgue, on vous le disait la semaine dernière, qui est sous le feu des critiques à cause de la facture envoyée aux familles endeuillées. Le gouvernement demande un contrôle.
Il me semble anormal que les contraintes liées à la situation de confinement et à des mortalités massives soient imputées financièrement aux familles.
Dans ce journal aussi, la France qui double son plan d'urgence pour l'économie à 100 milliards d'euros pour contrer une récession attendue autour de 6% cette année.
Et la Suède va-t-elle regretter d'avoir refusé le confinement, l'épidémie qui prend de l'ampleur?
Et puis vous avez aimé il y a quelques jours le fameux question pour un balcon. Et bien vous allez adorer question pour un frometon, l'initiative des fromagers.
Avoir un plaisir, un moment un peu hédonique autour du fromage, c'était le premier objectif. Et puis le deuxième, c'était aussi de soutenir les producteurs, puisque la filière, comme tout le monde, souffre.
Voilà l'initiative et le jeu des fromagers pour alerter sur leur situation économique. La bourse de Paris en nouvelle hausse ce soir, plus 1,4%, juste au-dessus des 4500 points.
Bonsoir Anissa, le ciel de ce vendredi.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Bien, demain, on finit la semaine en beauté avec un temps encore plus beau qu'aujourd'hui et des températures qui continuent de grimper très haut demain. Je vous donne tout à la fin du journal.
Europe 1.
Écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
C'est le médecin qui fait débat depuis des semaines. Maintenant, le professeur Didier Raoult, convaincu que son traitement, l'hydroxychloroquine, est efficace contre le coronavirus. Le rendez-vous ne passe donc pas inaperçu. Il a eu les honneurs du président de la République aujourd'hui, Emmanuel Macron, venu le voir en personne à Marseille, Jean-Rémy Baudeau.
Oui, ça fait plus de 2 heures que le président est à l'IHU de Marseille aux côtés du professeur Raoult. L'Élysée banalise totalement le déplacement, explique qu'Emmanuel Macron fait le tour de tous les traitements, de toutes les études sur le virus. Hier encore, il échangeait avec le patron de l'OMS sur le sujet. Ce matin, il était à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre avec le professeur Delfrécy pour revenir sur l'étude Discovery de l'INSERM. Il est au contact des spécialistes, explique son entourage. Pour l'heure, pas de volonté de mettre en avant telle ou telle méthode. Le président, bien conscient que le professeur Raoult divise la communauté scientifique, autant que la classe politique et même l'opinion française. Alors avant de prendre des décisions, avant son intervention devant les Français lundi, il veut faire le tour de toutes les perspectives possibles. Cette visite ne vaut pas validation du traitement, m'a dit cet après-midi un membre du cabinet d'Emmanuel Macron.
Alors Emmanuel Macron qui consulte donc, nous le dit Jean-Rémy Baudeau, avant son intervention de lundi soir, on sait qu'il fait polémique. Est-ce qu'il prend, Jean-Rémy, un risque malgré tout à s'afficher avec lui?
Eh bien s'afficher, Nathalie, vous aurez noté qu'il n'y a pas d'image ni de ce matin avec la rencontre avec le professeur Delfrécy, ni cet après-midi avec le professeur Raoult. Tous ces déplacements du président ont été réalisés loin des caméras, sans aucun journaliste. La question qui se pose est celle d'un éventuel risque politique pour le président. Est-il risqué de rendre visite à une des personnalités les plus controversées du moment? Un traitement qui génère autant de fake news et de complots en tout genre. Eh bien dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on prend le sujet dans l'autre sens. Il y a surtout un risque à ne pas traiter le professeur Raoult, à l'ostraciser, me confie un conseiller. Le calcul de l'Élysée, c'est qu'il faut prendre au sérieux tous les traitements tant que la recherche ne permet pas d'avoir un avis précis. On n'est pas dans le pour ou le contre, explique un conseiller qui refuse d'y voir donc un soutien politique. Et c'est une ligne qu'on retrouve au sein de l'exécutif. J'en parlais cet après-midi avec un ministre qui me confiait, si les médecins sont partagés sur la chloroquine, ça n'est pas à nous, politiques, de donner notre avis. Ce serait très dangereux.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Et lundi, on suivra bien sûr l'intervention en direct à 20h d'Emmanuel Macron, édition spéciale sur Europe 1. L'Élysée qui a déjà précisé que le confinement serait prolongé. Ce n'est pas une surprise au-delà du 15 avril.
Et on va y revenir avec Michaël Darmon. Que peut dire le président lundi? Les grandes voix, donc c'est à 18h30. Et Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National, sera mon invité politique à 19h10.
Et le docteur Jimmy Mohamed est avec nous comme chaque soir. Bonsoir docteur.
Bonsoir Sébastien.
Emmanuel Macron, donc, qui fait la tournée des chercheurs. Il y a les essais du professeur Raoult à Marseille, il y a ce grand essai européen sur la chloroquine et sur d'autres traitements aussi. Il y en a d'autres un peu partout en France, ça fait beaucoup, on s'y perd. Est-ce qu'on sait quand on y verra un peu plus clair sur ces différents traitements potentiels?
Alors c'est vrai qu'on vit une période assez extraordinaire et que les essais se multiplient très rapidement. Habituellement, il faut plusieurs mois avant d'avoir une autorisation. Désormais, en quelques heures, quelques jours, on peut faire des études à grande échelle et partout dans le monde. Alors il y a évidemment de nombreuses pistes, mais la piste probablement la plus prometteuse est celle de la lutte contre l'inflammation du tissu pulmonaire qui est causée par une libération explosive et incontrôlée de molécules pro-inflammatoires pour laquelle il n'existe aucun traitement à ce jour, qu'on appelle les cytokines. Alors on a des traitements notamment pour la transfusion chez des malades qui ont guéri du coronavirus. Ceux-là, les résultats, on les aura dans quelques semaines. On a l'essai Discovery. On traite avec des antiviraux des malades. Ça aussi, d'ici une semaine, on devra avoir des résultats intermédiaires. Le professeur Raoult nous explique que d'ici quelques jours, il aura aussi des résultats intermédiaires. Bref, il faut patienter. De nombreuses pistes sont à l'essai. On a aussi entendu parler du BCG, qui pourrait être aussi une piste. Donc, il faut un petit peu de patience. Et puis, il y aura les vaccins. Mais ça, c'est dans un second temps, un deuxième, voire troisième temps, d'ici quelques mois, voire peut-être un an ou deux. Donc, un peu de patience, même si on sait que c'est difficile. Pour l'instant, la seule urgence, c'est le confinement.
Voilà, c'est dit.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed. Le confinement, effectivement, on en est au 24e jour aujourd'hui. À demain, bien sûr, avec vous, 15h, sans rendez-vous avec Mélanie Gomez. Et puis à 18h également, vos questions sur le hashtag Radio Ouverte. Et juste après ce journal, je reçois cette fois le professeur Lantieri. Alors, cette fois, avec une autre méthode, il défendait en fait un essai sur un potentiel traitement issu des vers marins qui contiennent beaucoup d'oxygène. Et c'est qui a été stoppé là, juste avant d'ailleurs d'être mis en œuvre samedi. Ça aurait dû être samedi. Il nous dira pourquoi cet arrêt en urgence.
On vous le disait, depuis quelques jours, plusieurs communes ont annoncé leur intention de rendre obligatoire le port d'un masque, même artisanal, pour toute sortie. Certains maires ont même déjà pris des arrêtés. Eh bien, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, demande au préfet de faire retirer ces obligations qui ne sont pas jugées cohérentes, dit-il, avec le confinement. On va y revenir à 19h parce qu'on n'y comprend vraiment plus rien.
Voilà, et puis les grandes voix essaieront aussi de nous éclairer. Il y a ce soir cette polémique maintenant autour de la morgue installée provisoirement dans un hangar du marché de Rungis. On l'apprenait la semaine dernière. Rungis, c'est évidemment ce grand marché tout près de Paris.
Hein. Oui, et polémique sur la facture adressée aux familles endeuillées qui doivent payer même pour venir se recueillir. 55€ pour une heure. C'est un opérateur privé, OGF, qui gère le site, Élise Dangean. Le gouvernement demande un contrôle.
Oui, à la découverte de ces tarifications, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a demandé un examen approfondi et n'a pas hésité à exprimer son désaccord.
Il me semble anormal que les contraintes liées à la situation de confinement et à des mortalités massives soient imputées financièrement aux familles.
Sentiment partagé par Philippe Martineau, directeur général du réseau Le Choix Funéraire. Il appelle au pragmatisme et au respect de la loi.
Il y a un décret qui dit que la présentation d'un corps aux familles d'une personne décédée dans un établissement de soins public ou privé doit être présentée gratuitement à la famille pendant 72 heures. Moi, je pense aujourd'hui que le réseau qui a été délégataire de cette prestation se doit d'appliquer le texte et charge après aux collectivités de rémunérer ce prestataire.
Mais l'opérateur OGF se défend de cet argument, indiquant que cette morgue provisoire installée à Rungis devait être comparée à un funérarium où les prix sont les mêmes. Par ailleurs, le groupe rappelle la nécessité de rémunérer son personnel sur place. Au total, une trentaine de personnes.
Les précisions d'Élise Dangean pour Europe 1.
Il est 18h08 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Les chiffres donnent littéralement le tournis. Hein. L'impact du coronavirus sur l'économie semble chaque jour de plus en plus important. Désormais, ce sont 7 millions de salariés qui sont au chômage partiel, un tiers des personnels dans le privé.
Et la facture s'alourdit donc. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire annonce avec Gérald Darmanin que face à la très forte récession qui est attendue cette année, le montant du plan d'urgence de l'État va être doublé, Emmanuel Dutheil.
Oui, hein, l'année 2020 restera tristement dans les annales. Le coronavirus va laminer, il n'y a pas d'autre mot, l'économie française. Bercy table sur un recul de notre PIB, c'est-à-dire de toutes les richesses produites en un an, de 6%. À titre de comparaison, c'est deux fois plus que l'impact de la crise de 2008. Il s'agit, selon le ministre de l'économie, de la plus grande récession depuis 1945. Alors pour en limiter l'impact, le plan de soutien à l'économie est dopé. Il passe de 45 à 100 milliards d'euros. Le fonds de solidarité pour aider les petites entreprises est revu à la hausse. Et puis, tout ça aussi, c'est le résultat de certaines mesures dont le coût s'envole, comme par exemple le chômage partiel. Initialement, le gouvernement avait tablé sur moins de 9 milliards d'euros. Maintenant, il parle de 20 milliards d'euros. Il faut dire que quasiment un salarié sur trois est aujourd'hui au chômage partiel. Alors pour financer tout cela, le déficit et la dette vont s'envoler. Notre dette va atteindre 112% du PIB. Il faut dire que Bruno Le Maire le dit très clairement, le redressement économique sera long, difficile et coûteux. Il demandera des efforts de la part de tous les Français.
Emmanuel Dutheil du service économie d'Europe 1 et le ministre de l'économie Bruno Le Maire sera demain matin sur Europe 1, 8h15, invité de Sonia Mabrouk et Mathieu Béliard.
Et les Européens qui reprennent ce soir leurs négociations et vont à nouveau tenter de s'entendre sur un plan de relance.
Oui, en Allemagne, ce chiffre spectaculaire là aussi, la Lufthansa perd à chaque heure qui passe, la Lufthansa perd 1 million d'euros, c'est colossal. Le plus gros groupe européen du secteur aérien annonce qu'il ne s'en sortira pas sans un soutien de l'État. Et puis aux États-Unis, là aussi un chiffre catastrophe, 6,5 millions de nouveaux chômeurs en une semaine la semaine dernière et qui s'ajoute aux 10 millions déjà enregistrés sur la deuxième quinzaine de mars.
Et on va maintenant s'intéresser à ce qui se passe en Suède. Parce que jusqu'ici, c'était le contre-exemple, le pays qui refusait le confinement.
Pour vous dire, là-bas, les restos et les terrasses sont toujours ouvertes. Ça paraît complètement incongru. Et on voit les Suédois profiter tranquillement du soleil sans contrainte. Le pays se disait épargné. Sauf que Justin Morin, les chiffres sont en train de changer. L'épidémie est-elle en train de rattraper ce pays ?
Oui, c'est en tout cas ce que semblent montrer les chiffres. Le nombre de décès a presque triplé en une semaine. Près de 700 personnes sont mortes à cause du coronavirus. Et ce qui alerte les Suédois, c'est la comparaison avec les pays scandinaves voisins. Rapporté au nombre d'habitants, la Finlande, le Danemark ou la Norvège s'en sortent beaucoup mieux. La Norvège, par exemple, où après 93 décès, le gouvernement a annoncé que l'épidémie était sous contrôle. En fait, le gouvernement suédois de centre-gauche a choisi une autre stratégie pour lutter contre le virus, celle de la confiance envers la population. Les autorités appellent à la responsabilité de chacun. Dans les faits, seuls les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits, ainsi que les visites dans les maisons de retraite. Sinon, les bars sont ouverts, les écoles et les collèges aussi. Le télétravail est seulement encouragé et les voyages déconseillés. On est donc très loin des mesures drastiques prises dans le reste de l'Europe. On se souvient qu'au début de l'épidémie, la Grande-Bretagne avait choisi une stratégie similaire, avant de vite durcir le confinement, par peur de voir la situation leur échapper.
Justin Morin pour Europe 1 et à travers le monde. Les célébrations de Pâques débutent sans fidèles, évidemment. Le pape François célèbre ce soir une première messe. Et à Paris, l'archevêque Michel Aupetit a béni la capitale depuis la basilique du Sacré-Cœur.
Ouais. Allez, on va se détendre un petit peu. On va même jouer, Sébastien. Vous vous souvenez de questions pour un balcon? On en parlait la semaine dernière. On jouait à la fenêtre. Bon, alors pas du tout dans mon arrondissement, malheureusement. Nouvelle initiative. Là, on parle de fromage.
Question pour un frometon. Initiative lancée par des fromagers. Évidemment, ça commence ce soir. Alors, c'est un jeu là aussi sur les réseaux sociaux. Pierre Herbulot, mais avec une idée de fond, parce que pour ces artisans, il s'agit d'alerter sur leur situation économique difficile.
Oui, moins 60% de commandes pour les AOP, encore plus pour les fromages fermiers. Si c'est le cœur du sujet, l'idée ce soir n'est pas de faire un cours magistral sur le marché des produits laitiers. Question pour un frometon, c'est une dégustation de fromage par internet, de manière ludique, avec des questions façon « je suis Julien Lepers ». Pour participer, c'est trop tard, mais l'émission est diffusée en live sur Facebook, ça commence à 19h. Derrière le jeu, deux objectifs, raconte le co-animateur de la soirée, François Robin, fromager, meilleur ouvrier de France.
c'était d'apporter un petit peu de fun à cette période, avoir un plaisir, un moment un peu hédonique autour du fromage. C'était le premier objectif. Et puis le deuxième, c'était aussi de soutenir les producteurs, puisque la filière, comme tout le monde, souffre, notamment les fromages qui sont d'affinage moyen, c'est-à-dire par exemple les types camembert, les Saint-Nectaire, les Brie, les fromages de chèvre.
Cinq fromages particulièrement touchés depuis le début du confinement seront mis en avant ce soir, comme le Briat Savarin. Je discutais tout à l'heure avec le producteur de la ferme de Juchy en Seine-et-Marne. Les commandes ont été divisées par 10 et le fromage supporte mal l'affinage. Ça veut dire beaucoup de pertes dans les semaines à venir. Le message ce soir, c'est donc acheter du fromage, oui, mais pas n'importe lequel. Il faut privilégier les pâtes molles, le mieux étant encore de demander conseil à son fromager quand on a la chance d'en avoir un.
Voilà, Pierre Arbulo.
Parfait, lorsque l'heure de l'apéro a sonné.
Ben oui, c'est ça. Et on va chez son fromager parce qu'ils ont besoin d'aide en ce moment. Et puis eux sont partis dans l'espace en plein confinement. Voilà une manière de s'échapper. Un astronaute américain et deux cosmonautes russes ont décollé comme prévu ce matin à 10h vers la station spatiale internationale. À cause de la pandémie, les adieux à leur famille ont dû se faire par visioconférence. C'est dur.
Merci beaucoup Sébastien Krebs. De nouvelles infos avec vous à 18h30. Du côté du temps, Anissa, une journée très ensoleillée, des températures douces.
Et oui, encore demain, on remet ça. Hein. Ça sera une très belle journée demain, Nathalie. Plus que printanière, c'est même une journée aux allures d'été qui nous attend demain matin. Alors, il y aura quelques nuages sur le Languedoc-Roussillon, avec des entrées maritimes sur le golfe du Lion. Sur le reste du pays, le ciel est complètement dégagé en début de journée. Et puis, dans l'après-midi, sur les Pyrénées, le ciel va se couvrir avec même sur les reliefs des petites averses et quelques coups de tonnerre. Mais ça, c'est uniquement sur les reliefs des Pyrénées. Partout ailleurs, le ciel est complètement dégagé avec un soleil qui brille tout au long de la journée. Alors côté température, c'est très agréable, hein. 4 à 11 degrés demain matin, jusqu'à 13 même au Havre et au bord de l'Atlantique. Et puis dans l'après-midi, ça grimpe encore avec 18 à 24 degrés en moyenne de la Manche à la Méditerranée. Alors 18 à Cherbourg, 20 pour Bastia, 21 à Marseille. Les températures les plus fraîches sont celles en bord de mer. Et puis ailleurs, écoutez bien, ça grimpe encore demain avec 25 degrés à Dijon, Toulouse et Bordeaux, 26 à Nantes et Lyon, 27 degrés à Rennes, Blois et Paris, et 28 la maximale pour Auxerre demain après-midi.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec votre invité dans un instant, Nathalie Lévy.
Du sang du ver marin pour soigner le Covid-19. Le professeur Laurent Lantillier a déjà utilisé cette molécule pour ses greffes, mais ce test vient d'être suspendu. Pourquoi ? Il est mon invité en direct sur Europe 1 dans moins d'une minute.
Et votre grand journal du soir se poursuit et vous accompagne dans cette crise sanitaire tous les soirs jusqu'à 20h. Avec votre invité ce soir, Nathalie Lévy, il est chirurgien plasticien. Il demande à tester le produit issu du sang du ver marin contre le Covid-19. Vous recevez le professeur Laurent Lantillier.
Bonsoir professeur, merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes aussi chef du service de chirurgie reconstructrice à l'hôpital Pompidou à Paris. C'est un coup dur pour vous aujourd'hui. L'agence du médicament vient de stopper votre solution issue du sang d'un ver marin. Je rappelle son but, c'est apporter plus d'oxygène aux patients. Pourquoi ça a été stoppé ?
Alors d'abord, il y a une première chose, c'est que l'essai, il n'a même pas commencé.
Bah oui.
Donc c'est un premier point. Et ça fait quand même plusieurs semaines qu'on essaie de faire avancer. J'ai dit « on, nous ». C'est-à-dire que moi, j'ai apporté cette idée, mais il y a énormément de personnes autour qui se sont fédérées, des professeurs de réanimation, le professeur Combe, le professeur Constantin, le professeur Cholet, et puis d'autres derrière qui se sont mis dedans, qui ont adhéré à cette idée. Donc je ne suis pas tout seul. Ce n'est pas mon idée qui est sortie uniquement de mon chapeau.
Donc, non, là, mais il y a eu une étude, professeur. Il y a eu une étude qui remonte à 2011, donc il y a 8 ans maintenant, où le porc a été testé. Résultat, une létalité de 100% pour les animaux ayant reçu cette substance. C'est au regard de ce résultat que l'agence du médicament a freiné, on est d'accord ?
Oui, alors au regard de ce résultat, c'est une information visiblement, d'après ce que je sais aujourd'hui, parce que je ne suis pas détenteur ni quoi que ce soit chez Marina, moi je suis porteur du projet simplement. Il faut déjà savoir que cette molécule, elle est quand même utilisée. Moi je l'ai utilisée, elle est utilisée en pratique clinique dans les greffes, donc cette information était déjà connue avant, il ne faut pas dire qu'elle n'est pas connue. Et il ne s'agissait pas de la même formulation de la molécule, ce n'était pas du tout ce qui est utilisé, à des doses qui ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, si la NSM a reçu cette information et a demandé plus d'informations, et demande en attendant d'avoir les informations, d'examiner tout, de suspendre, ce qui est normal. Vous savez, c'est comme quand vous allez lancer une fusée sur la Lune, on vous dit, tiens, il y a un problème, un tel un truc sur le réacteur 27, est-ce qu'on ne peut pas vérifier? Et ben, on vérifie avant de lancer, on ne va pas dire, non, si j'ai déjà vérifié, quelqu'un d'autre a vérifié. On va aller jusqu'au
test,
bout,
et c'est normal. Bien sûr, mais le test et la létalité de 100% pour les animaux, en amont effectivement de l'essai sur des patients qui devaient être imminents, d'ailleurs qui devaient être programmés pour quand? Pour ce week-end, c'est ça? Pour cette fin de semaine?
Ah bon, je ne sais pas, non, parce que l'assistance publique n'avait toujours pas signé la convention, donc ça aurait
mais
été
c'était imminent. C'était imminent, professeur?
Non, je vous dis, tant que l'assistance publique n'avait pas signé la convention, c'était pas fait, c'était pas faisable.
Donc qu'est-ce que vous dites ce soir? Qu'est-ce que vous dites ce soir? Est-ce que vous êtes dans une position où vous dites, bon ben voilà, c'est normal, on a verrouillé, l'agence verrouille parce que effectivement l'étude de 2011 n'a pas apporté les résultats escomptés et on verra quand est-ce qu'on reporte l'essai, ou on vous dit, ben non, pas de date pour le prochain, pour l'essai? Pour l'essai sur patient.
Alors on va mettre deux choses là. D'abord, quand vous faites de la recherche, vous semblez que vous prenez des modèles animaux. Il est normal que de temps en temps, vous ayez des résultats négatifs. Ça serait tout à fait surprenant que ce ne soit pas le cas. Et quand vous utilisez des modèles animaux, que ce soit des cochons, que ce soit des porcs, que ce soit du chien, que ce soit du rat, ou que ce soit, vous vous rendez compte que ces modèles ne se comportent pas comme se comporte le corps humain. Et parfois, les modèles que vous utilisez qui semblent très pertinents ne le sont pas du tout. Il se trouve que le cochon est un mauvais modèle pour ce type d'expérience, et ça a été démontré par la suite. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'autres expériences de ce type-là sur le cochon. Mais ça, on peut rentrer sur les détails scientifiques, ce n'est pas le sujet, vos auditeurs ne comprendraient pas.
En tout cas, l'Agence du médicament s'est quand même appuyée sur cette étude et sur le résultat de cette étude pour se prononcer.
C'est normal, mais comme je le dis, c'est normal que l'Agence du médicament veuille avoir des informations quand on leur donne une information sous le manteau en disant « à propos, il s'est passé quelque chose en 2011, c'est normal ».
Mais donc, pardonnez-moi d'insister, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous restez optimiste sur l'arrêt Nicole aujourd'hui et sur la possibilité de faire un essai à des malades aujourd'hui, à des humains?
Quand je vois le nombre de demandes et l'enthousiasme qu'a suscité cette idée auprès de mes collègues réanimateurs, quand je vois les demandes que j'ai auprès de mes collègues américains qui disent Laurent, laisse t'as les premières informations, nous on va tester aussi. Quand je vois les demandes qui viennent du monde entier en disant c'est une idée entre guillemets géniale, je me dis qu'il faut qu'on teste cette idée. Cette idée est peut-être géniale, elle est peut-être fausse. Je ne dis pas qu'elle est vraie. Elle est peut-être fausse, peut-être que mon idée est totalement fausse. Mais je pense que dans le temps dans lequel nous sommes, ne pas vouloir tester une idée qui potentiellement peut sauver des milliers de vies, je pense que éthiquement, c'est inconcevable.
Alors, professeur, qui ne veut pas tester, selon vous, et pourquoi alors? Parce qu'effectivement, il y a une urgence. On ne peut pas condamner une chance.
Je ne peux pas faire de politique sur quoi que ce soit, si vous voulez. Je ne sais pas.
Non, mais aujourd'hui, si vous vous étonnez de voir qu'effectivement, l'essai ne peut pas avoir lieu, c'est bien parce qu'il y a des décisions qui ont été prises et que vous déplorez.
Oui, la seule décision que je déplore, c'est la précipitation avec laquelle l'assistance publique a dit finalement on ne fera pas l'essai, alors qu'on n'a même pas, ils n'ont même pas reçu les documents qui ont été demandés à mRNA. Une partie des documents a été transmis et ils n'ont pas transmis eux-mêmes les documents qu'ils doivent transmettre à l'ANSM. Donc il y a quand même des règles de droit à respecter dans ce genre de procédure, même si elles sont plus rapides que d'autres. Donc on va respecter ça. Et puis s'il y a d'autres étapes qui se posent un problème, il y aura d'autres étapes qui posent un problème à la rencontre. Et puis si la France ne veut pas tester cette molécule, eh ben je suis sûr que dans d'autres pays, ils seront ravis pour essayer cette molécule comme on teste la chloroquine dans d'autres pays.
Parce que donc aujourd'hui, à ce jour, il s'agit d'une suspension en urgence. On ne vous a pas dit, voilà, il y aura une nouvelle date, il y aura une nouvelle évaluation. Vous n'avez pas de garantie, on est d'accord?
Mais bien sûr qu'on n'a pas de garantie, sinon ce ne serait pas une suspension, on ne vous dit pas, vous commencez demain. C'est
donc normal. Pas de date de nouvelle évaluation.
Non, ça sera quand l'ANSM, une fois qu'ils auront vu les documents, nous diront oui, c'est OK, ou peut-être qu'ils diront non, finalement, ça ne nous plaît pas, donc votre essai, vous ne le faites pas. Je ne sais pas. Moi, je crois toujours à cette molécule, et vu ce que je connais de cette molécule et que je vais utiliser, je continuerai à y croire, quoi qu'il en soit.
Vous avez vu tout à l'heure Emmanuel Macron à Marseille. Alors vous avez vu, en tout cas vous avez su, parce qu'on n'a pas vu d'image aux côtés du professeur Didier Raoult qui prône l'usage de l'hydroxychloroquine. Vous soutenez, vous aussi, professeur Lantieri, son efficacité. Je voulais vous entendre là-dessus. Cette rencontre, pour vous, c'est un tournant? Elle signifie quelque chose?
Je ne sais pas si ça signifie quelque chose, mais en tout cas, je vais vous dire, Didier Raoult est un très grand médecin. C'est le premier mot que j'ai dit. Et c'est un très grand chercheur. Et dans les circonstances dans lesquelles nous sommes, je trouve que son attitude est l'attitude correcte, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Des gens qui disent qu'il faut faire des essais randomisés double aveugle sur 3000 patients, je pense qu'ils ont tort. Ça ne veut pas dire que toute la méthodologie qu'a étudiée Didier Raoult soit la bonne. Ça ne veut pas dire qu'il a forcément raison. Mais sur ce que l'on voit apparaître, contrairement à ce qu'on raconte, moi j'ai lu des publications qui viennent de Chine et d'autres publications, il y a des essais randomisés qui reprennent les mêmes notions que Didier Raoult. Et lorsqu'il aura publié ces 2000 patients sur lesquels il a fait un traitement, nous saurons où ça en est. Et alors qu'on est toujours en train d'attendre les autres essais thérapeutiques qui n'ont pas commencé ou qui ont commencé sur 4000 patients à travers l'Europe. Vous savez qu'à travers l'Europe, le responsable européen de la recherche a démissionné.
Oui, mais pardonnez-moi, professeur Lantieri, la défiance, elle demeure quand même parce que la dernière étude sur 80 patients du professeur Raoult, elle porte sur des cas avec des symptômes assez légers. La majorité des patients se seraient remis de toute façon du Covid-19 avec ou sans traitement à l'hydroxychloroquine.
Ce n'est pas l'objectif de Didier Raoult. Son objectif est de baisser la charge virale. Baisser la charge virale permet de rendre les patients moins contaminants, moins longtemps. Et donc, c'est une solution pour sortir du confinement. Si on peut avoir un traitement qui baisse la charge virale, alors il y aura moins de transmission. Et il faut savoir qu'actuellement, l'Institut Pasteur a fait un essai sur un traitement préventif à la chloroquine, comme on le fait à la Nivaquine, c'est la même d'ailleurs pour le palliatif, oui. C'est la même molécule. Donc il y a un essai actuellement par l'Institut Pasteur, ce ne sont pas des fantaisistes, sur la même idée. Je ne sais pas si Didier Raoult a raison. Ce que je sais, c'est que pour moi, c'est un grand médecin et que son attitude je n'ai pas de reproche sur son attitude, sur la manière dont il conduit les choses.
Un dernier mot, professeur Lantieri, sur l'arénicole, parce que pour le coup, vous, c'est véritablement les vertus de la molécule du ver marin sur lesquelles vous travaillez depuis déjà un moment. Vous parliez de l'étranger parce que vous disiez, si en France, on n'en veut pas, à l'étranger, peut-être qu'en gros, on verra cette solution et on utilisera cette solution. Est-ce que vous avez déjà des contacts à l'étranger et avec quel pays ?
Je suis les Américains, mes collègues américains qui regardaient ce que je faisais. Je dis, écoute, je suis bloqué, est-ce que ça vous intéresse ? Ils m'ont dit, oui, ça nous intéresse, nous, on essaiera de le faire débloquer. Comme je l'ai dit et comme je l'ai écrit, dans ces périodes où l'humanité est en danger, c'est l'open source qui doit prédominer. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous devons transmettre des idées. On n'est pas dans le commerce, on doit transmettre des idées pour sauver le maximum de l'humanité. C'est très
ça veut dire quoi, pardonnez-moi, on n'est pas dans le commerce ? Ça veut dire quoi, on n'est pas dans le commerce, professeur Lantieri ? Allez au bout, parce qu'effectivement, il y a un danger mondial, on est face à une crise inédite, mais alors, vous visez qui en disant ça ? Parce que autant aller au bout des choses.
Je veux dire que moi, je n'ai aucun lien d'intérêt avec Imarina. Je n'ai jamais touché d'argent de quoi que ce soit. Donc voilà, c'est très clair. Et si je pousse, c'est que je pense que c'est une bonne solution. Donc c'est pas pour d'autres raisons. Et je n'ai jamais réclamé d'argent pour quoi que ce soit. Parce que quand je vois des gens qui réclament 500 000, 300 000 ou 400 000 euros pour faire de la recherche, alors qu'il y a une urgence, d'abord on fait, puis ensuite on voit comment on fait. Le pays, on avance petit à petit. Je trouve que la manière dont certains se comportent, personnellement, c'est pas la manière dont je vois les choses. Pardon ?
Qui,
non, moi, je n'ai pas de nom à dire, de quoi que ce soit. Je trouve qu'il y a des gens qui avancent, qui ont vraiment des projets et qu'on les bloque. Ce n'est pas uniquement moi ou Didier Raoult. Je connais des gens qui ont amené des choses, qui voudraient publier, mais on les bloque en disant il n'y a pas ceci, il n'y a pas la norme ceci, il n'y a pas la norme cela. Si vous voulez, moi, on m'a demandé hier de passer un examen pour avoir le droit de poser des sondes chez les patients. J'ai authentique, il faut que je passe une heure derrière mon ordinateur pour cocher des cases, pour savoir si j'ai le droit de le faire dans les conditions de recherche, parce que je le fais dans les conditions cliniques tous les jours, mais on dit que c'est pas la même chose que dans la recherche, vous devez cocher des cases. Et tout ça est tout à fait obsolète dans la mesure ou dans la situation dans laquelle nous sommes. Demain, on en parlera, on fera autre chose, mais aujourd'hui, il y a urgence, et comme je le dis, il faut savoir prendre un certain nombre de risques qui sont des risques raisonnés, qui sont des risques réfléchis pour pouvoir faire avancer les traitements, pour avoir les solutions. Merci. Et pour sauver une grande partie de l'humanité.
Merci professeur Lantieri, vous citiez Imarina, je précise que c'est la biotech bretonne qui se disait prête. Absolument. Et qui se dit toujours prête à mettre à disposition cette molécule, la rénicole, donc ce ver marin. Merci beaucoup de nous avoir répondu ce soir en direct sur Europe 1, professeur Lantieri.
Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit avec dans un instant Nathalie Lévy.
Emmanuel Macron à Marseille, la situation de nos voisins espagnols. Les grandes voix sont au rendez-vous, à tout de suite.
30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Votre rappel des titres, Sébastien Krebs. Sébastien Krebs, si vous m'entendez, c'est à vous. Ah, ouais. Peut-être une petite chute du micro, mais on va vous retrouver, Sébastien Krebs, avec de nouvelles infos. Si vous êtes là, votre rappel des titres.
La France, confrontée à sa pire récession depuis 1945, va doubler son plan d'urgence pour l'économie à 100 milliards d'euros, annonce Bruno Le Maire. Le déficit va atteindre cette année plus de 7%, la dette publique 112% du PIB. Le ministre de l'économie qui vient détailler ses décisions demain matin, 8h15 sur Europe 1. Les Européens reprennent ce soir leurs négociations sur un plan de relance commun. Un déplacement également ce soir d'Emmanuel Macron qui ne passe pas inaperçu à Marseille. Il est allé rencontrer le controversé professeur Raoult qui défend le traitement à la chloroquine. Ce matin, il échangeait avec des chercheurs qui participent à l'essai européen sur ce potentiel traitement. Les hôpitaux d'Île-de-France, toujours en saturation, de nouveaux transferts de malades vont avoir lieu demain vers la région Nouvelle-Aquitaine. Le département de Seine-Saint-Denis est particulièrement touché. On va y revenir à 19h. On tentera aussi de comprendre la position du gouvernement sur le port des masques. Des communes veulent le rendre obligatoire, mais le ministre de l'Intérieur demande au préfet de faire retirer ces mesures. À Béziers, un contrôle du confinement mené par la police municipale a mal tourné. Un homme arrêté est mort à son arrivée au commissariat. Une enquête est ouverte. Les agents décrivent un comportement particulièrement agressif. À l'étranger, nouveau record dans l'état de New York. Presque 800 morts supplémentaires en 24 heures. Mais le rythme des hospitalisations ralentit. Et puis en Grande-Bretagne, 881 morts là de plus en une journée. L'état de santé du Premier ministre Boris Johnson continue de s'améliorer, fait savoir son porte-parole.
Merci beaucoup Sébastien. On vous retrouve à 19h. Alors. En un seul morceau. Les joies du direct à distance. Anissa, très beau demain.
Peut-être qu'il faisait bronzette, Sébastien, parce qu'il fait très beau, effectivement, et ça va continuer, ça sera encore mieux. Demain, on va pouvoir en profiter, aérer nos maisons, parce que demain, c'est bien plus qu'une journée printanière, c'est même une journée estivale. Le soleil brille partout, sans aucun nuage. Demain, il n'y a que sur les Pyrénées, finalement, que les nuages seront assez nombreux et pourront vous apporter quelques gouttes, mais sur les reliefs seulement, avec un ou deux coups de tonnerre. Donc demain après-midi, sous ce beau soleil, les températures, forcément, elles grimpent. Écoutez bien, demain après-midi, nous aurons 19 à Nice et Dunkerque. C'est plus frais en bord de mer. Hein. 21 à Marseille et Toulon, 24 au Puy-en-Velay, 25 à Clermont-Ferrand, 27 demain après-midi pour Paris et 28, la maximale est prévue pour Auxerre. Ce sont des températures d'été que nous avons là actuellement pour un mois d'avril à la veille de Pâques. C'est très rare et c'est très élevé et ça va continuer en plus, Nathalie.
Bon, écoutez, si c'est bon pour le moral, allez, à tout à l'heure, Anissa.
Exactement. La suite de votre grand journal du soir avec vous, Nathalie Lévy. Et c'est l'heure de prendre du recul, d'analyser l'actualité du jour avec nos grandes voix. Le débat des grandes voix, c'est jusqu'à 19h avec nos spécialistes en direct et à distance. Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1. Emmanuel Duteil, en charge de l'économie à Europe 1. Mickaël Darmon, éditorialiste politique. Et depuis Barcelone, ce soir, Henri Laguéry, notre correspondant en Espagne.
Bonsoir aux grandes voix.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Ce petit rendez-vous. Merci d'être là, fidèle au poste. Bonsoir Henri de Laguéry, bienvenue particulier à vous qui nous rejoignez ponctuellement. Et c'est par vous que je vais commencer évidemment ce soir parce que on a peut-être un petit sursis, une petite lueur d'espoir qui nous vient de chez vous. L'incendie commence à être maîtrisé. C'est pas moi qui le dis, c'est Pedro Sanchez.
Oui, effectivement, c'est la phrase qu'il a prononcée ce matin. Il était au Congrès devant les députés. C'est vrai que ici, on l'a dit souvent, hein, c'est pas un pic finalement.
C'est le chef du gouvernement. Pardonnez-moi, je précise. Je pensais que vous alliez faire. C'est le chef du gouvernement, ce qui est pas évident nécessairement pour tout le monde.
Excusez-moi, oui, le chef du gouvernement socialiste espagnol qui s'exprimait ce matin devant quelques députés au Parlement espagnol. Et c'est vrai que cette semaine, on est sur ce fameux plateau parce que cette courbe, il n'y a pas un pic qui après redescend. On a eu des chiffres assez positifs en début de semaine. C'est reparti à la hausse le nombre de décès quotidiens. Et puis aujourd'hui, ce chiffre de décès quotidiens est un petit peu en baisse. 683 en 24 heures, c'est énorme. Mais c'est vrai que c'est un chiffre en baisse. On a dépassé les 15 000 décès en Espagne. Mais on a l'impression, et je le dis avec énormément de prudence, ouais, on a l'impression que la situation se stabilise, que le pire est peut-être repassé.
Peut-être. Alors, on est effectivement très prudent. Je reviens vous voir dans quelques minutes. L'autre information du jour, disons que l'information du jour, en France, c'est du côté de Marseille que ça s'est passé tout à l'heure. On n'a pas d'image, on n'a pas de son, Michaël Darmon, mais on vous a pour nous raconter peut-être les dessous de cette rencontre Macron-Raoult. Raoult, c'est évidemment le professeur Didier Raoult et sa chloroquine, hydroxychloroquine, dont on parle tant et qui fait tellement de débats.
Oui, d'abord, il y a quelques images à l'instant même qui viennent d'être fournies par l'Élysée sur les réseaux sociaux. Une vidéo qui montre dans l'enceinte de l'hôpital une série d'applaudissements avec le président de la République qui applaudit tous les personnels soignants. Tout le monde applaudit mutuellement, je vais dire. Et sur plusieurs étages, une petite vidéo un peu comme ça qui donne le ton également de la journée. Cette journée était consacrée pour Emmanuel Macron à aller rencontrer les chercheurs sur les traitements pour deux raisons particulières. D'abord parce qu'il prépare effectivement l'allocution de lundi soir et surtout parce que également, mais ça vous pourra aussi en parler, il a eu hier un entretien avec le président de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, et il est établi qu'il n'y aura pas de vaccin disponible pour le grand public avant un an et demi, peut-être deux ans.
Oui.
Donc on se refocalise sur les traitements et comme le traitement qui pose le plus de questions en France et celui de promu, on le sait, par Didier Raoult, eh bien, ça a été l'occasion donc de faire cette visite surprise qui est en même temps un geste vers l'opinion, bien évidemment, parce qu'on connaît les polémiques que cela suscite et cela soulève depuis longtemps. Vous l'avez encore évoqué il y a quelques instants. Et c'est également la rencontre de chacun dans leur genre, de deux êtres atypiques, de deux êtres qui veulent être en permanence en rupture.
Parce que je voudrais interroger Yves Roger sur le sujet. Ils se parlent
régulièrement, voilà. Ils se connaissent, s'apprécient, mais bien évidemment, c'était autre chose que d'aller le rencontrer.
Voilà. Ève Roger, alors sur ce sujet, et puis sur les tests, les essais cliniques aussi, est-ce qu'on a les premiers résultats? Commençons par Didier Raoult et évidemment ce rapprochement, en tout cas là, très ponctuel, mais quand même.
Oui, alors bon, c'est une image qui me vient, c'est plutôt le druide et le président. Là, j'imagine Emmanuel Macron, fils de médecin, face à cet homme au physique étrange, mais c'est vraiment qu'une anecdotique. Moi, ce qui me frappe, c'est que l'hydroxychloroquine, elle est testée aussi à l'hôpital où il est allé ce matin, avec le test Discovery. Il teste l'hydroxychloroquine, justement, à la demande, sans doute, du président de la République. Donc, il n'était pas forcé de prendre un avion pour aller jusqu'à Marseille pour parler de ce traitement-là. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, là, il y a une deuxième chose que je trouve assez choquante, vous savez que Didier Raoult, il promet aux Marseillais, ils font la queue devant pour faire des dépistages. Oui. Alors que la doctrine aujourd'hui en France, c'est qu'il n'y a pas assez de tests, et que les tests sont destinés aux soignants, aux personnes fragiles, aux femmes enceintes, etc. Donc ça veut dire qu'il légitime d'une certaine façon la transgression, le non-respect des règles. Il y a quelque chose que je trouve assez choquant. Alors par ailleurs, dans les essais, j'ai regardé hier une vidéo absolument passionnante de la professeure Florence Ader qui mène les essais Discovery, et elle dit bien, nous, il y a 3200 patients en Europe, il y en a aujourd'hui 500 patients français qui ont été inclus depuis le 22 mars, et on ne pourra pas même physiquement, intellectuellement, donner des résultats avant la fin du mois d'avril. Donc ça veut dire que Emmanuel Macron, il fait une tournée et en même temps, il ne peut pas dire lundi quelque chose sur quelles sont les pistes. Il pourra dire les pistes, mais il ne pourra jamais donner de résultats. Et évidemment, vous l'avez dit sur le vaccin, c'est effectivement, même s'il y a... Là, pour le coup, ça me fait penser à une fable de La Fontaine. C'est le lièvre et la tortue. Il y a des lièvres qui disent, on a déjà commencé à tester sur les hommes et peut-être à l'automne 2020, on l'aura. Mais on sait très bien que si on travaille sérieusement... Ça ne sera pas avant 12 à 18 mois, ça c'est sûr.
Restez avec nous sur Europe 1, votre grand journal du soir avec le débat des grandes voix. Se poursuit jusqu'à 19h, vous écoutez Nathalie Lévy.
Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts avec d'autres personnes. Appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos, mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Artisans, commerçants, professionnels libéraux, ce message vous concerne.
Je suis chef d'une entreprise de proximité et avec la crise du coronavirus, je suis vraiment inquiet pour mon activité.
Vous rencontrez tous des difficultés. Des aides existent pour protéger votre entreprise. Utilisez sans attendre toutes les mesures négociées, comme le report des impôts et des charges sociales, le chômage partiel, le soutien à la trésorerie ou l'aide de solidarité. Retrouvez l'ensemble des aides sur le site udp-france.fr. UDP, indépendant et solidaire.
Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1, il est 18h40, c'est la suite du débat des grandes voix ce soir avec vous Thierry Dagiral et autour de vous les spécialistes d'Europe 1 à distance, Eve Roger, chef du service société, Emmanuel Duteil, chef du service économie, Mickaël Darmon, éditorialiste politique et ce soir avec nous depuis Barcelone, Henri de la Guérie, notre correspondant en Espagne.
Et Anissa, Nathalie a un problème technique mais elle est là en ligne avec vous.
Oui, alors c'est un peu improbable, mais c'est des choses qui arrivent. J'espère que vous m'entendez bien. On était évidemment... Alors, j'ai pas entendu tout ce que vous m'avez dit, Eve Roger, sur la visite du professeur, pardonnez-moi, du président Macron à Didier Raoult, mais on va y revenir de toute façon dans un instant, parce que ça monte en puissance les interrogations et évidemment le questionnement de cet affichage aujourd'hui, à la veille donc de la prise de parole du président lundi. Emmanuel Duteil, il y a une autre information économique qui est très importante et que je voudrais vous faire commenter ce soir, ce sont ces 100 milliards pour soutenir les entreprises. Bruno Le Maire précisera tout cela demain matin puisqu'il sera l'invité de la matinale d'Europe 1 à 8h15 au micro de Sonia Mabrouk entre autres. 100 milliards en tout cas, c'est l'annonce du jour.
Effectivement, le ministre de l'économie et son collègue de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin, ont donné une grosse interview ce soir aux Échos dans lequel ils dévoilent le nouveau plan pour soutenir les entreprises. Pourquoi nouveau plan? Parce que jusque-là, ils avaient parié sur 45 milliards pour soutenir les salariés et les entreprises. On passe à 100 milliards. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des nouvelles mesures. Par exemple, le fonds de solidarité qui aide les petites entreprises, eh bien, il est dopé parce que ça cartonne. Mais malheureusement, ça cartonne. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté. Il y a également un petit peu plus d'argent pour l'hôpital public. Alors on attend de savoir véritablement comment ça va se concrétiser, mais il y a un peu plus d'argent. Et puis, il y a tout simplement des mesures qui coûtent beaucoup plus cher que ce qui avait été imaginé jusque-là, puisque le chômage partiel, jusque-là, on parlait d'un petit peu moins de 9 milliards d'euros de dépenses. Et bien, ça y est, on est à 20 milliards. On a 7 millions de personnes en ce moment au chômage partiel. Il faut voir qu'on a quasiment un salarié sur trois au chômage partiel, c'est dire le coût sur l'économie française. Et c'est détaillé aussi puisque pour la première fois, on a une prévision de croissance pour l'ensemble de l'année 2020. C'est un cataclysme. 6% de recul du PIB. C'est quoi le PIB? C'est toutes les richesses que nous produisons en un an. 6%, est-ce que c'est beaucoup? C'est énorme. C'est du jamais vu en temps de paix. Je vais vous donner une petite comparaison. C'est deux fois plus que le cataclysme de la crise de 2008. Donc vous imaginez ce que ça va donner. Bien évidemment, ça va faire exploser les déficits, ça va faire exploser la dette. Bruno Le Maire, dans cette interview, dit il va falloir que chacun des Français participe un petit peu. Mais Gérald Darmanin prévient, il n'y aura pas de hausse d'impôts. Quid maintenant de savoir comment on va payer quand même.
Voilà, on lui posera la question demain matin à 8h15. De toute façon, alors est-ce qu'on aura une réponse? En tout cas, la question lui sera posée. Retour en Espagne avec vous, Henri de la Guérie. Je me sens très très loin de vous, mais je suis là avec un énorme point d'interrogation en gras évidemment sur l'été. Sur l'été, même sans vacanciers étrangers en Espagne, ça fait clairement des frissons, cette idée-là.
Oui, effectivement. Alors c'est pour le moment, c'est très difficile de dire ce qui va se passer cet été. Et c'est vrai qu'en général, dans cette crise, il est bien difficile de faire des prévisions. Mais il y a cette une du journal ABC aujourd'hui, avec, histoire de vous faire voyager un tout petit peu, cette très belle plage de Palma de Mallorca et cette cathédrale au fond. Mais ce titre terrible, le gouvernement se prépare à fermer les frontières au tourisme étranger cet été. Pour le moment, je le répète, ce n'est pas fait. Mais c'est vrai que j'ai contacté aujourd'hui le ministère du tourisme espagnol et qui dit tout dépend finalement de ce que diront les autorités sanitaires. Et c'est vrai qu'ici, clairement, on a le sentiment que ce sera de toute façon, quoi qu'il arrive, quelles que soient les décisions prises, un été pour le tourisme extrêmement compliqué. Et le tourisme en Espagne, quelques chiffres, l'été, ce sont 20 millions d'étrangers entre juillet et août qui viennent en Espagne. C'est 13% des emplois en Espagne. Donc évidemment, ce sera extrêmement compliqué. Le secteur dit déjà que la saison, quoi qu'il arrive, sera presque perdue parce qu'il y aura sans doute des de très fortes contraintes, notamment dans le secteur du transport aérien. On chiffre ça à peu près à 1 milliard d'euros pour le secteur, les pertes pour le tourisme en Espagne.
Et la saison, elle n'a pas franchement commencé, mais en ce moment, c'est aussi une période pour l'Espagne symbolique, au-delà même du symbole, la semaine sainte, et on commence déjà à avoir une tendance en fait de ce que ça pourrait donner cet été.
Effectivement, alors là de toute façon pour cette semaine sainte, tout le monde est évidemment chez soi. De toute façon, les 13 000 hôtels que compte l'Espagne sont fermés, obligatoirement fermés, c'est un ordre du gouvernement espagnol et c'est terrible, c'est un symbole. Les rares hôtels qui sont ouverts, ce sont ceux qui accueillent les malades, ceux qui ont passé le pire, j'allais dire, et qui finalement c'est un espèce de sas de décompression avant le retour à la maison. Il y a cette semaine sainte absolument étrange pour l'Espagne, c'est vraiment le moment habituel des vacances avec ces processions, avec ces cérémonies de Pâques, les chocolats qu'on s'offre, tout un tas de gâteaux selon les régions, ils sont un petit peu différents. Et donc voilà, c'est étrange. Et finalement, ça préfigure peut-être l'été qu'on va vivre en Espagne.
Ouais. Alors, on y reviendra avec vous, évidemment, Henri de la Guérie. Michaël Darmon, je reviens vers vous parce que on est passé donc de ce soir, ça aurait dû être ce soir, l'allocution du président, la troisième dans ce confinement, j'espère que vous m'entendez.
Très bien.
À lundi. Donc voilà, vous nous l'avez confirmé d'ailleurs, c'est lundi, pour pouvoir faire le tour des possibilités en fait, hein, d'ici lundi, le tour des possibilités médicales en tout cas, des essais actuels, des propositions, des solutions qui sont aujourd'hui proposées dans les différents établissements hospitaliers et par les différents chercheurs. Bien sûr, on retient cette image avec Didier Raoult aujourd'hui et on retient aussi peut-être les conséquences politiques que cela peut avoir. Elle le disait, Ève Roger, jusqu'à ce que ça coupe ma ligne. Évidemment, ce personnage est très critiqué. Il ne fait pas l'unanimité.
Oui, mais cette fois-ci, pour aller sur l'autre champ politique, du côté de l'opinion, il fait l'unanimité. Et c'est la raison pour laquelle, parce que Eve a eu raison de soulever les contradictions liées sur le plan médical, au déplacement et scientifique, au déplacement donc du président de la République, mais sur le plan politique, il était quasiment obligatoire ce déplacement, parce que le sentiment dans l'opinion est installé sur deux sujets. Un, le gouvernement a menti aux Français pour les masques. Deux, il est en train d'étouffer un espoir qui est celui soulevé par le professeur Raoult. Et ça, sur le plan politique, c'est dévastateur, parce que c'est exactement la matrice de la colère des Gilets jaunes qui est en train de se reporter sur ce professeur, avec en plus, bien entendu, la geste nationale, on avait déjà évoqué, de Paris contre Marseille. Donc, de ce point de vue-là, on voit bien que dans la préparation de l'allocution et, de lundi, et dans le besoin qu'il a de sans arrêt renouveler ou tenter de maintenir une forme de confiance auprès des Français, ce qui est très difficile, eh bien, il fallait commencer à régler la polémique Raoult sur le plan politique. On voit bien qu'il y a une série d'images qui sont nettoyées. Les images qui sont en train de circuler aujourd'hui, diffusées à l'instant même par l'Élysée, nettoient les mauvaises images de Pantin, où on a vu que le président de la République a fait un déplacement totalement anti-geste barrière. De ce point de vue-là, avec l'attroupement involontaire, mais l'attroupement qui s'est organisé autour de sa présence. Donc, il y avait une nécessité politique, parce que sur le plan politique, eh bien, il est soutenu. Et on voit bien d'ailleurs depuis tout à l'heure, c'est pas évidemment un hasard, dès que Macron est arrivé à Marseille, tous les leaders de la région et en particulier de tous ceux qui sont à droite en plus, hein, c'est évidemment lié, eh bien prennent la parole pour dire enfin, il reconnaît, il est lucide, évidemment ils mettent la charrue avant les bœufs, mais ils ont bien compris que la démarche de Macron est politique et qu'il doit absolument tenter de clore cette polémique qui existe entre, effectivement, le président Macron et le professeur Druide Raoult.
Oui, effectivement. Alors, je vais revenir. J'espère que vous m'entendez toujours, les amis.
Très bien.
Petite gestion, là, aujourd'hui, du direct à distance qui nous fait quelques frayeurs. Emmanuel Dutheil. On va se retrouver dans un petit instant, mais on a aussi, à cause du coronavirus, on va revoir en tout cas à la hausse le plafond pour le paiement sans contact. On a commencé nous à l'amorcer hier soir sur Europe 1 et ça devrait se faire même très vite.
Oui, ça devrait se faire. Alors, mais c'est quand même très 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 important de garder le conditionnel. Pourquoi ? Parce qu'il y a une volonté politique de Bercy d'imposer aux banques de relever le plafond de 30 à 50 euros. Mais les banques disent, pourquoi pas ? Mais il faut que nous y arrivions d'un point de vue technique. Ça veut dire quoi d'un point de vue technique? C'est-à-dire qu'il faut adapter tous les terminaux dans les commerces qui sont encore ouverts et surtout, il faut adapter votre, matre et notre, nos cartes bancaires à distance. La dernière fois où le plafond a été relevé, quand il était passé de 20 à 30 euros, on avait changé les cartes bancaires. Ça avait pris 3 ans. Là, bien évidemment, on n'a pas le temps de faire ça. Donc l'idée, il y a un test, là, qui est mené dans la quasi-totalité des grandes banques pour voir si elles sont capables de le faire. L'un des plus grands réseaux de France va le faire demain, son test. Et ça va être décisif pour voir si, techniquement parlant, ça tient. Et si ça tient, oui, le plafond sera relevé. Et pourquoi on le décide maintenant à l'aune du coronavirus? Parce que tout ce qu'on en est, on fait moins souvent nos courses, mais on fait plus de grosses courses. Donc, on est largement au-dessus des 30 euros. Donc, il y a un vrai problème de plafond. Et il y a d'autant plus un problème de plafond que de nombreux commerçants, même si je le rappelle, c'est totalement illégal, mais de nombreux commerçants, pour des raisons de sécurité sanitaire, refusent le paiement aujourd'hui en espèces, ou en tout cas, incitent fortement les gens à passer plutôt à la carte bancaire ou à un autre moyen de paiement. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, il y a une pression extrêmement forte et que les banques, je peux vous dire, sont plus que jamais invités à le décider. Alors, quand est-ce que ça va se décider? Il y a une visioconférence des 6 principales banques en tout début de semaine, lundi ou mardi, pour faire le point sur les tests. Et si ça marche, eh ben, ça devrait être annoncé derrière. Il faudrait environ un mois pour déployer tout ça.
Ah, un mois quand même, hein. Un mois de délai.
Bon, on attendez, c'est quand même pas une mince affaire, hein.
Ah, bah, écoutez, hein. Bon, quand il y a urgence. Merci, Emmanuel Duteil. Merci. On va se retrouver dans un instant, à tout de suite.
La suite de votre grand journal du soir jusqu'à 19h sur Europe 1 avec le débat des grandes voix autour de vous. Nathalie Lévy, vous êtes de retour et ça fait du bien. Ève Roger, chef du service société d'Europe 1, Emmanuel Duteil, chef du service économie, et Mickaël Darmon, éditorialiste politique, et notre correspondant en Espagne, Henri de la Guéry, avec nous depuis Bruxelles. Depuis oui. Barcelone.
Oui, dans Barcelone.
Si vous mettez Bruxelles en Espagne. Aïe, 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 il est dur ce confinement.
Aïe, aïe, aïe.
Pardon.
Voilà. C'est très bien aussi Bruxelles, hein. C'est un peu moins. C'est un, parfois voilà. Un peu moins. Alors,
évidemment,
ciel, mais...
c'est toujours moins évident le fou rire en radio parce qu'il n'y a pas l'image et que ça dure plus longtemps. Pour les auditeurs, c'est donc moins rigolo. Je suis de retour, effectivement. Pardonnez-moi pour ces grandes voix quelque peu agitées. Vous l'aurez tous compris, des petits problèmes parfois techniques. Mais on est là, au rendez-vous et merci de votre compréhension. Ève Roger, on vous laisse redire un mot ce soir de dire out. Pardon, j'entends pas toujours ce que vous me dites, donc comme j'étais un petit peu éloignée, je vous laisse reprendre la main. Voilà.
Non, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est désolant dans cette affaire, je trouve, c'est qu'on n'aura jamais le fin mot de l'histoire, parce que les tests qui sont aujourd'hui, les tests dits officiels, hein, Discovery, en fait, ils ne testent que l'hydroxychloroquine et encore pour les patients hospitalisés. Alors que Didier Raoult, on sait qu'il rajoute un petit antibiotique, enfin, je sais pas s'il est petit, qui s'appelle l'azithromycine, ouais. Et c'est plutôt sur des patients en début de maladie. Donc en réalité, on va comparer des carottes et des choux-fleurs, donc on ne saura jamais vraiment si Didier Raoult il avait vraiment raison ou pas. Et ça, vraiment, je trouve que c'est vraiment dommage, parce que je vois bien qu'Emmanuel Macron ne veut pas insulter l'avenir, on ne sait jamais, mais j'ai peur que ça soit comme souvent dans la vraie vie, un peu à mi-parcours, quoi. Que ça soit un peu une zone grise et pas forcément ni tout blanc ni tout noir. C'est ça que je voulais dire.
Ouais. Juste, Henri de la Guéry, pardon, je ne veux pas vous piéger, mais est-ce que... pour le coup, l'Espagne, c'est pas si loin de la France. Est-ce qu'on parle de chloroquine chez vous? Est-ce que c'est
non,
une méthode
non, justement, qui...
non,
c'est très étonnant. Ça ne fait strictement aucun débat. J'ai vu passer quelques articles, mais il y a beaucoup de polémiques ici, mais il n'y a pas de débat autour de la chloroquine.
D'accord, donc c'est pas utilisé a priori, en tout cas dans les établissements hospitaliers, on n'a pas eu recours à la méthode Didier Raoult.
Non, a priori non.
A priori non. On était avec Emmanuel Duteil aussi et avec Mickaël Darmon, bien sûr, sur le chiffre de 100 milliards pour soutenir les entreprises qui sera éclairci et détaillé par Bruno Le Maire demain. Emmanuel Duteil, on voit bien qu'il y a de l'eau dans le gaz du côté de l'Eurogroupe. Hein. On le voit bien, on l'a vu hier, peut-être une avancée aujourd'hui, mais on a vraiment du mal à s'entendre.
C'est clair, mais il faut absolument y arriver. Ce serait cataclysmique pour l'image de l'Europe si jamais ils devaient ne pas réussir à se remettre d'accord. Ils ont repris, il y a maintenant quelques minutes, en tout cas même une petite heure, les discussions pour essayer de trouver un accord, raison pour laquelle il faut peut-être encore moins rater l'interview de Bruno Le Maire demain, puisque en direct, on découvrira demain matin les résultats de cet Eurogroupe. Je vous rappelle le but, c'est de trouver une solution commune pour répondre à cette crise majeure. On parlait des chiffres en France, mais
Tout à l'heure, Henri nous parlait également du cataclysme sur l'économie espagnole. On voit bien que tous les pays, il n'y en a quasiment pas un qui est épargné. On fait toujours la séparation entre les pays du Nord et les pays du Sud. Bien sûr qu'elle existe, bien sûr, une fois de plus, qu'il y en a qui sont plus riches que les autres. Mais là, on est sur quelque chose d'historique quand on voit que le PIB allemand devrait baisser de 10% sur le deuxième trimestre. Vous avez beau être la première économie d'Europe, quand vous vivez une telle difficulté, vous avez besoin d'être en commun avec les autres. Donc là, c'est ce qu'on attend, une réponse commune, ferme, et il faut arrêter les atermoiements.
Eh oui. Et Michaël Darmon, je vais vous donner la parole là pour conclure en quelques secondes, promettez-le-moi, au sujet de lundi, évidemment, et d'Emmanuel Macron. On va pas vous demander de prédire l'avenir, mais comme vous êtes informé, est-ce qu'on a une idée de ce qu'il peut annoncer? On voit bien aussi qu'il y a des atermoiements sur le port du masque. Christophe Castaner, encore tout à l'heure, qui dit non, les villes où on ordonne le port du masque, eh ben non. Il fait un rétropédalage là-dessus. Est-ce qu'on a une idée date du déconfinement, je vais y arriver. Est-ce qu'on sait en quelques mots?
Eh bien, l'attente en quelques mots. Il y a une très forte attente pour que le président de la République propose et expose un modèle de sortie de crise aux Français et vers quoi ils peuvent se projeter. Puisqu'il a été dit, bien entendu, confirmé que le confinement irait au-delà du 15 avril. La question, c'est jusqu'à quand? Et vraisemblablement, c'est peut-être la réponse la plus délicate pour le gouvernement à procurer aux Français, parce que en réalité tous les scénarios vont dans différentes directions et il va falloir prendre un arbitrage délicat avant lundi soir, parce que les Français attendront une parole organisée et claire.
Oui, c'est-à-dire pas de lyrisme cette fois, pas de la faute du fractionnement.
Il va devoir beaucoup travailler sur lui-même, oui.
Ouais. Ah,
oui.
Merci beaucoup Michaël Darmon, on en parlera évidemment lundi avec vous. Merci les grandes voix, merci beaucoup Henri de la Guérie d'avoir été avec nous ce soir depuis Bruxelles en Espagne. Ça reste depuis Barcelone, bien sûr, on vous salue, à très vite. Merci beaucoup les grandes voix et pardonnez-moi pour ces aléas techniques.
Au revoir.
Au revoir.
Et votre grand journal du soir se poursuit jusqu'à 20h, Nathalie Lévy.
Oui, on aura des artistes dans quelques minutes à 19h30 précisément pour qu'ils nous racontent leur confinement. Marine Le Pen, patronne du Rassemblement National, sera mon invitée à 19h10. Mais d'abord, c'est votre journal de 19h. Sébastien Krebs, à suivre.
Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
J'ai une réponse d'un ministre qui est incapable de faire respecter le confinement et qui vient nous donner des leçons. Les maires savent mieux que le ministre de l'Intérieur ce qui est important pour les habitants de leur commune.
La colère du maire de Sceaux, il voulait rendre obligatoire le port du masque dans sa ville. Le ministre de l'Intérieur s'y oppose.
Une visite en catimini mais qui ne passe pas inaperçue. Emmanuel Macron à Marseille pour rencontrer le controversé professeur Didier Raoult qui défend le traitement à la chloroquine.
Dans ce journal aussi, attention à ne pas négliger les autres maladies. Allez voir votre généraliste, c'est l'appel des médecins.
L'État qui double son plan d'urgence à l'économie à 100 milliards d'euros.
Et la facture du chômage partiel qui explose, les grandes entreprises sont appelées à faire preuve de civisme. Et puis de la musique pour s'échapper du confinement. On écoutera avec Angèle Châtelier le nouvel album des Strokes qui sort demain.
Et Anissa du côté du ciel.
Très bleu encore demain avec beaucoup de soleil. C'est une journée bien plus que printanière. Demain, elle sera estivale. Elle va commencer avec quelques légers nuages. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
Alors, on n'y comprend vraiment plus rien. Certains médecins le disent, appellent à ce que nous portions tous un masque, une protection sur le visage, même artisanale, lorsque nous sortons. Et depuis quelques jours, des communes veulent en distribuer, veulent même rendre le port de ces masques obligatoire. Certains maires ont même déjà pris des arrêtés. Eh bien, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'y oppose. Romain Oquet, pourquoi, quelle est la position précisément du gouvernement sur ces masques ?
Eh bien, pour le gouvernement, ces arrêtés posent des principes contestables. Christophe Castaner a demandé au préfet d'intervenir pour que les communes concernées retirent leurs arrêtés sur le port du masque obligatoire. Le ministre l'a dit devant l'Assemblée nationale. Pour Christophe Castaner, ces arrêtés risquaient d'envoyer un message trompeur à la population.
C'était à la fois pas cohérent par rapport à l'exigence qu'implique le confinement, parce que ça peut laisser penser qu'on peut sortir si on a un masque, en s'affranchissant des règles du confinement. Que c'est un sujet d'égalité territoriale, parce que certaines communes peuvent avoir les moyens d'équiper l'ensemble de leur population en masque quand d'autres ne l'auraient pas.
Autre argument avancé par Christophe Castaner, l'efficacité sanitaire du port du masque imposé à toute une population ne serait pas médicalement démontrée. Jusqu'à aujourd'hui, seules 3 communes avaient pris ce genre d'arrêté, soutenu par l'Association des maires de France. Il y a Val-d'Isère, Royan, où le maire s'est rétracté, et puis Sceaux. Dans cette ville, le texte a été suspendu cet après-midi suite à une plainte de la Ligue des droits de l'homme. Mais le maire, Philippe Laurent, s'attendait à un tel dénouement, outré par l'injonction du ministre de l'Intérieur.
Ceci est inacceptable. J'ai une réponse d'un ministre qui est incapable de faire respecter le confinement et qui vient nous donner des leçons. Les maires savent mieux que le ministre de l'Intérieur ce qui est important pour les habitants de leur commune.
Quant à savoir si les villes auront un jour le droit de rendre obligatoire le port du masque, le ministre renvoie la question à l'après-confinement, alors que des communes comme Cannes, Paris, Nice disent déjà y réfléchir.
Les précisions de Romane Hockey pour Europe 1.
Alors, rendons-nous maintenant à Marseille, où le président de la République n'est pas passé inaperçu. Aujourd'hui, il s'est déplacé pour aller y rencontrer le professeur Didier Raoult.
Oui, c'est le médecin qui fait débat, qui défend l'usage généralisé de la chloroquine sans attendre le résultat des essais. Est-ce une forme d'adoubement ou une simple consultation? En tout cas, rien n'a filtré de ce rendez-vous, sauf une image des deux hommes masqués devant la porte du bureau du professeur. Stéphane Frangy, vous êtes à Marseille. Une visite donc en catimini et surtout sans aucun journaliste.
Oui, puisque cette visite n'a été officialisée qu'en toute dernière minute par l'Élysée, le président qui est arrivé sur place dans le service du professeur Raoult aux alentours de 16h. Alors, quelle interprétation donner à ce déplacement? Pour le député des Bouches-du-Rhône, La République En Marche, Saïd Amada, il ne faut pas y voir trop vite une sorte d'adoubement de l'infectiologue marseillais et du protocole médical qu'il défend.
C'est pas le sens. Hier, il était dans un hôpital. On aurait pu aussi dire qu'il se rangeait derrière la personne qu'il était allé voir. C'est un tour d'horizon de ce qui se fait au niveau national. Il a raison de prendre le pouls de ce qui se fait en la matière de lutte contre le Covid. Il a besoin, à mon sens, d'une conviction personnelle. Il a besoin aussi de soutenir ceux qui sont au front tous les jours.
Et la classe politique locale qui ne manque pas de réagir, en tout cas le chef de l'opposition, socialiste au conseil municipal, Benoît Payan, est pour sa part partagé entre méfiance et réserve.
Au-delà de la polémique sur ce qui est proposé par le professeur Raoult, j'attends du président de la République de fixer un cap, parce que le président de la République nous a habitués depuis le début de la crise à des pas de deux. Je ne veux pas qu'il vienne à Marseille dans les conditions habituelles. Il fait coucou, il fait un bain de foule, tout ça doit s'arrêter.
Et cette visite présidentielle coïncide, on le rappelle, avec l'annonce imminente par le professeur Raoult de résultats d'une troisième étude sur son traitement à base d'hydrocarbures. Cyclochloroquine.
Stéphane Frangy en ligne de Marseille. Emmanuel Macron qui consulte donc à tout va et qui prépare son intervention. Il s'exprimera finalement lundi soir à 20h. Nous suivrons en direct sur Europe 1, édition spéciale.
Et nous y revenons dans 10 minutes. Marine Le Pen sera mon invitée politique.
Les hôpitaux d'Île-de-France sont toujours en état de saturation. De nouveaux transferts de malades auront lieu demain vers la Nouvelle-Aquitaine. Et dans cette région parisienne, un département attire particulièrement l'attention. C'est la Seine-Saint-Denis qui semble payer un plus lourd tribut que les autres. La mortalité y a bondi de 63% sur la deuxième quinzaine de mars. Et ce n'est pas parce que le confinement y serait moins respecté. Théo Manval, comment les médecins expliquent-ils ce chiffre ?
Eh bien, par un confinement justement respecté par une population beaucoup plus dense et plus précaire dans des logements plus petits. Frédéric Adnet dirige les urgences de l'hôpital Avicenne à Bobigny.
Il y a plus de morts en Seine-Saint-Denis, tout simplement parce qu'il y a plus de malades. On est un département très paupérisé avec une population tous les uns sur les autres, ce qui fait que la promiscuité dans la cellule familiale favorise la diffusion du virus. Et c'est valable pour toutes les épidémies.
À l'extérieur, le confinement est globalement respecté, répète la préfecture et jusqu'au syndicat de police. Le nombre de verbalisations est en baisse, 23 000 depuis le début du confinement, soit un PV tous les 5 contrôles. Cette population plus dense et plus précaire est surtout, Sébastien, celle qui doit aussi continuer de travailler dans ces métiers qu'on a décrits comme la seconde ligne face au virus, l'aide à domicile ou les caisses des supermarchés. Georges-François Leclerc est le préfet du département.
En Seine-Saint-Denis, le télétravail est très peu développé parce qu'une partie non négligeable de la population active opère dans des métiers qui sont souvent requis dans le cadre de la continuité des grands services publics de la nation, et de ce fait, il y a dans certains cas une exposition au risque importante.
Et les horaires de fermeture des commerces ont d'ailleurs été avancés par les autorités du département, 20h chaque soir et 13h dimanche et lundi pour le week-end pascal.
Théo Manval.
Et les appels se multiplient de la part des médecins. Alors attention, hein, attention à ne pas vous négliger, à ne pas négliger les autres pathologies.
Oui, il semble que la peur d'aller consulter dans ce contexte d'épidémie fait parfois négliger certains symptômes. On dégrade ou dégrade le suivi des malades. Alors continuer à consulter, c'est l'appel des praticiens qui craignent des effets collatéraux de l'épidémie. Écoutez le docteur Jean-Christophe Calmès, le vice-président du syndicat MG France.
Il faut absolument que les patients chroniques continuent à consulter leur médecin de façon régulière pour éviter justement des accidents aigus. Sinon, on risque de voir arriver, après l'épidémie du Covid, une autre épidémie qui sera celle de tous ces patients chroniques qui vont s'aggraver brutalement. Donc, c'est absolument essentiel de continuer à consulter son médecin. Et pour ça, on a mis en place plein de trucs. Nos cabinets sont aujourd'hui séparés, pour ceux qui le peuvent, en deux catégories, donc les Covid et les pas Covid. On reçoit les gens qui ne sont pas suspects à des horaires bien déterminés, uniquement sur rendez-vous pour leur permettre de venir nous voir. Et au préalable, ils sont très souvent régulés, c'est-à-dire qu'on a souvent une téléconsultation en amont pour estimer si le problème que présente le patient peut être réglé à distance via la téléconsultation ou bien si le patient nécessite un examen clinique et auquel cas nous lui proposons de venir dans ces tranches dédiées. Il n'y a pas de risque à venir nous voir dans nos cabinets lorsque nous vous le proposons, il n'y a absolument pas de risque.
Le docteur Jean-Christophe Calmès, il était l'invité de Raphaël Duchemin et Pierre de Villeneuve ce midi sur Europe 1.
Alors venons-en maintenant, Sébastien, à la situation économique. La France, confrontée à sa pire récession depuis 1945, on le disait hier, qui va doubler donc le plan d'urgence, désormais à 100 milliards d'euros. C'est ce qu'annonce Bruno Le Maire. Il viendra détailler, préciser ses décisions demain matin à 8h15 sur Europe 1, au micro notamment de Sonia Labrouk.
Le déficit atteindra du coup 7,6% cette année, la dette publique 112% du PIB, et cela pour financer notamment les mesures de chômage partiel. Un salarié du privé sur trois est désormais concerné, ce sont presque 7 millions de personnes. La facture est considérable et la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, appelle maintenant les grandes entreprises qui le peuvent à faire preuve de civisme. Carole Ferry, ça veut dire quoi ?
Eh bien, ça veut dire que quand elles ont les reins suffisamment solides, elles ne sont pas obligées de faire payer leur chômage partiel à l'État. Ce que demande la ministre, c'est qu'elles prennent elles-mêmes en charge le salaire des employés qui n'ont momentanément plus de travail, qu'elles ne demandent pas à être remboursées. Car ce dispositif coûte très cher à l'État. Le budget initial était de 8,5 milliards d'euros. Muriel Pénicaud avance désormais le chiffre de 20 milliards. Au total, 628 000 entreprises ont eu recours à ce dispositif. Parmi elles, énormément de petites et moyennes entreprises. Alors le but, c'est d'éviter les licenciements massifs dans des entreprises qui n'auraient pas les moyens de payer les salaires pendant cette période de crise. Les dossiers sont d'ailleurs acceptés assez rapidement pour répondre à l'urgence de la situation. Mais l'État ne voudrait pas non plus jeter l'argent par les fenêtres. D'ailleurs, une fois l'urgence passée, des contrôles devraient avoir lieu pour sanctionner les abus.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1. Ce soir, les Européens reprennent leurs négociations sur un plan de relance commun après l'échec d'hier. Des chiffres venus de l'étranger. Le virus a fait plus de 90 000 morts dans le monde. Nouveau comptage, nouveau record dans l'état de New York aujourd'hui. Presque 800 morts supplémentaires en 24 heures, même si le rythme des hospitalisations semble ralentir. En Grande-Bretagne, 881 morts en une seule journée. L'état de santé du Premier ministre Boris Johnson continue, lui, de s'améliorer. C'est ce que fait savoir son porte-parole. Et puis, une première réunion ce soir du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est la première fois que ce Conseil de sécurité se réunit depuis le début de la crise.
Et puis, on va terminer en musique. Hein. C'est nécessaire par ces temps compliqués. Dans ces temps compliqués, c'est rare, mais certaines sorties d'albums ne sont pas repoussées. Voilà qui permet donc un petit peu de s'échapper.
Alors, oui, et on va s'échapper avec le groupe américain The Strokes, eux qui jouaient il y a quelques semaines aux États-Unis à l'un des meetings de Bernie Sanders avant qu'il ne se retire. Eh bien, ils sortent demain un nouvel album très attendu par les amateurs de rock, hein, Angèle Châtelier.
Oui, les Strokes ont fait renaître le rock au début des années 2000. Ce nouvel album est leur sixième, le premier depuis 7 ans. Le groupe est connu pour la voix rocailleuse et nonchalante du leader Julian Casablancas, devenu depuis une icône, mais aussi pour ses guitares dites brutes, hein, un peu tranchantes, que l'on retrouve évidemment dans ce nouvel album. Mais alors, The New Abnormal, ces 9 titres variés, fidèles au groupe qui seront, sans surprise pour certains, où se mêlent aussi des envolées synthétiques et plus pop, un savant mélange qui a toujours été efficace dans leurs derniers albums. Strap me like a cord, I'm in hungry boy, holding out the night, lonely everlasting. Strokes qui sont comme nous tous confinés. En prémisse de ce nouvel album à sortir demain, le groupe a publié une vidéo d'eux, chacun chez soi. 17 minutes de conversation entre copains et surtout musiciens, parlant principalement de leurs connaissances en musique et faisant même un hommage prononcé au grand de la soul, Bill Withers, décédé la semaine dernière.
Voilà de quoi rajouter dans la playlist de votre confinement, Nathalie Les Strokes.
Ouais, c'est une vraie découverte pour moi. Mais vous connaissez mes goûts musicaux. Merci Angèle Le Chatelier, merci à vous Sébastien Kreff. C'est 19h30 pour un nouveau journal complet. Anissa, très peu de nuages dans le ciel demain.
Ah oui, on pourra les compter sur les doigts de la main, hein, les nuages demain. Au lever du jour, nous aurons sur le Languedoc-Roussillon un ciel assez couvert avec des entrées maritimes. Et puis le vent d'OTAN qui souffle toujours, hein, jusqu'à 60 km/h en rafale demain. Ces nuages et ces entrées maritimes vont très vite se dissiper, je vous rassure, pour laisser place à la mi-journée, un très beau soleil. Dans l'après-midi, c'est sur les Pyrénées que les nuages seront les plus présents, avec quelques gouttes possibles et quelques coups de tonnerre, mais uniquement sur les reliefs. En plaine, ça sera très calme. Partout ailleurs, c'est le soleil qui brille toute la journée, une journée estivale demain, et des températures toujours plus douces chaque jour. On gagne à chaque fois un degré de jour en jour. Alors demain matin, nous aurons, c'est frais le matin, 4 à Nevers, 6 à Marseille et Grenoble, 8 à Saint-Etienne et Carcassonne, 12 pour Paris, jusqu'à 13 au Havre. Et puis alors dans l'après-midi, il fait plus frais en bord de mer, 19 à Nice et Dunkerque, 21 à Marseille et Toulon, 24 au Puy-en-Velay. Et alors après, toutes les températures que je vais vous énumérer sont au-dessus des 25 degrés. Nous aurons beaucoup de villes au-dessus des 25 degrés demain, 25 à Nancy et Clermont-Ferrand, 27 degrés pour Paris demain après-midi et 28 la maximale prévue pour Auxerre. Et ça va continuer comme ça. Ça va un petit peu se dégrader avec des pluies qui arrivent par l'ouest dimanche et lundi, mais le soleil sera très vite de retour la semaine prochaine.
Europe 1.
À la suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec dans un instant votre interview politique.
Oui, avec ce soir mon invité Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, pour revenir entre autres sur le déplacement d'Emmanuel Macron à Marseille aux côtés du professeur Raoult tout à l'heure, et puis cette allocution présidentielle reportée à lundi. À tout de suite.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec vous Nathalie Lévy et votre invité politique. Vous recevez la présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen.
Bonsoir Marine Le Pen.
Bonsoir.
Merci d'être ce soir à mon micro en direct sur Europe 1. Vous avez suivi comme nous, la surprise d'ailleurs était complète, Emmanuel Macron aux côtés du professeur Didier Raoult tout à l'heure à Marseille. Marine Le Pen, vous êtes toujours prononcée en faveur de la prescription généralisée de la chloroquine. De voir cette image, on l'a aperçue sur les réseaux sociaux, hein, vous y voyez quoi ?
Bon, écoutez, j'ai le sentiment que le président de la République court après les événements, mais pour être extrêmement précise, je n'ai pas réclamé la généralisation de la chloroquine. J'ai réclamé la liberté pour les médecins de pouvoir la prescrire. Voilà. Mmh. Étant entendu qu'ils sont confrontés à des malades non testés pour l'immense majorité d'entre eux, puisque nous avons un nombre de tests qui est absolument dérisoire par rapport à d'autres pays, mais qui présentant des symptômes de Covid-19, on nécessitait qu'on les soigne. Et il m'apparaissait que des médecins de ville qui ont fait 10 ans d'études, qui connaissent bien les deux molécules dont on parle, hein, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, pouvaient très bien faire leur travail, hein, et respecter leur serment, c'est-à-dire soigner les gens alors qu'il n'y avait aucun autre traitement à disposition contre le Covid-19.
Aujourd'hui, quand vous voyez donc Emmanuel Macron aux côtés du professeur Raoult, et puis faire un peu le tour finalement des chercheurs et des possibilités à ce stade de la crise, 24e jour de confinement, à la veille de son allocution, la troisième donc dans cette période, vous dites quoi ? Il s'accroche à toutes les possibilités, c'est de l'errance ?
Bah, j'espère que il va revenir sur les décisions qui ont été prises par le gouvernement et qui évidemment ont interloqué l'ensemble des Français. La décision consistant à interdire aux médecins l'usage d'un médicament dont pourtant ils avaient l'usage depuis près de 60 ans, la décision de réserver cette association de médicaments aux hôpitaux pour les cas graves, alors que manifestement ça n'est pas l'indication qui était préconisé par le professeur Raoult. J'espère qu'on va évoluer parce que je vais vous dire, pour déconfiner, il va quand même falloir avoir un certain nombre de critères. Pour déconfiner, il y a un passage obligé.
L'hydroxychloroquine est utilisée hein, dans les hôpitaux. Vous avez entendu le ministre de la Santé, Olivier Véran, depuis 8 jours maintenant. C'est utilisé de toute façon.
Oui, mais madame, c'est utilisé pour les cas graves. C'est car bien. Il n'y a que les cas graves qui sont pris en charge à l'hôpital. Or, le professeur Raoult explique que si cette association de deux médicaments est utile, elle est utile en tout début de symptômes. Car au moment où la situation s'aggrave pour les patients, alors il est trop tard. Leur niveau, leur taux de virus en réalité dans l'organisme a d'ailleurs totalement baissé à partir du moment où la situation est grave. C'est là où on ne comprend pas la décision du gouvernement. Mais dans ce
aujourd'hui,
domaine,
le gouvernement s'appuie sur le conseil scientifique qui est à ses côtés hein, depuis le début de cette crise et même un petit peu avant. Ce conseil scientifique, aujourd'hui, vous lui accordez quel crédit, Marine Le Pen ?
Pas énormément, je ne vous cache pas, hein, puisque on a quand même eu droit sur les conseils du conseil scientifique, sur les conseils hein, de ce conseil scientifique, conseil effectué au gouvernement, à tout, ratatou et le contraire de tout. Voilà. Sur l'intégralité des sujets, sur les masques, sur les tests, sur la prise en charge par l'hôpital, sur le rôle des médecins de ville, aujourd'hui, peut-être et même peut-être demain, sur le traitement. Le problème, c'est
mais comment faire autrement, Marine Le Pen ? On est dans un événement totalement inédit, ubuesque, une crise comme aucune nation n'a jamais connue avant nous, si ce n'est évidemment la Chine, dans les 2 mois qui ont précédé l'arrivée en France. Mais comment faire face à une situation aussi extrême ? Comment vous auriez fait, vous ?
Mais madame, pardon. Il y a des tas de gens qui réfléchissent pendant des années et qui créent des rapports extrêmement intéressants sur ce qu'on appelle les situations de crise sanitaire. Tout cela, normalement, est prévu. Il doit y avoir des dizaines de rapports qui doivent dormir dans les tiroirs du gouvernement parce que toutes ces situations de crise sanitaire mondiale ont évidemment été imaginées par un certain nombre de personnes, réfléchies pour pouvoir précisément les anticiper. Or, on a le sentiment qu'on navigue à vue depuis le début de cette crise.
Alors, qu'auriez-vous fait, vous, Marine Le Pen, si vous aviez été au pouvoir ?
Alors, madame, moi, j'aurais d'abord fermé les frontières, tout de suite, pour empêcher les gens qui venaient des régions qui étaient contaminées de pouvoir arriver sur notre territoire et continuer cette contamination. Pour ceux dont je ne pouvais pas empêcher la venue, je les aurais confinés durant une quarantaine de jours, parce que je crois qu'en réalité, la quarantaine est extrêmement plus utile que la quatorzaine, comme on dit. J'aurais massivement investi tout de suite dans des tests pour tester tout le monde. Il fallait tester tout le monde. J'aurais permis aux médecins de soigner avec le seul traitement qu'on avait à disposition à l'époque, c'est-à-dire cette association. Ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, de toute façon, on n'a absolument rien d'autre. Et j'aurais multiplié, évidemment, les réorientations d'entreprises pour pouvoir fabriquer des masques et être autosuffisants. Parce qu'encore une fois, sommes arrivés dans une situation de confinement total telle que nous la vivons et qui va avoir des conséquences économiques dramatiques, c'est parce qu'on a quand même raté la première phase, qui est la phase de l'endiguement, qu'ont réussi d'autres pays.
Marine Le Pen, aujourd'hui, il y a quand même des pays qui ne sont pas touchés alors qu'ils n'ont pas fermé, ils n'ont pas mis de contrôle aux frontières. Les tests, on voit bien la difficulté pour en obtenir. Il va y avoir peut-être...
Madame, excusez-moi, vous me dites, on voit bien la difficulté pour en obtenir. Non, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des pays qui testent massivement leur population et que nous ne le faisons pas. Et pour l'instant, on ne...
Et alors, comment vous l'expliquez, Marine Le Pen ?
Mais madame, pourquoi sommes-nous, étions-nous, fin mars, à 5000 tests par jour, quand l'Allemagne était entre 300 000 et 500 000 tests par jour ?
Alors, voilà, quelle est votre explication ? Quelle est votre explication, vous ?
Mais madame, l'impréparation, comme sur tout le reste... L'impréparation, le fait que, encore une fois, ce qu'a demandé l'OMS très tôt, tester, soigner, isoler, eh bien, n'a pas été fait.
Et Marine Le Pen, on parle du tracking.
Dans la situation dans laquelle nous sommes.
On parle du tracking pour tenter de sortir de ce confinement, désormais, de ce traçage hein, via les téléphones portables. Alors, le moins intrusif possible et le plus brièvement possible pour ne pas non plus être confronté à une deuxième vague. Quelle est, vous, votre opinion ?
Mon opinion, c'est qu'on cherche à détourner l'attention des gens du problème majeur.
Aujourd'hui, nous n'avons même pas encore de masques pour nos soignants. Ça, c'est la réalité de ce que nous vivons. Or, il ne peut pas y avoir de déconfinement réussi sans des tests massifs et sans massivement la mise à disposition de masques. Aujourd'hui, la commune de Saint-Romain de Colbosque, en Normandie.
Mais attendez, j'entends, mais le tracking n'a pas son utilité.
C'est important, madame.
Alors, allez-y,
aujourd'hui,
allez-y.
La commune de Saint-Romain de Colbosque, en Normandie, fait un appel public. L'hôpital est à la recherche de sacs poubelles pour fabriquer des surblouses. Alors, je vais vous dire, lorsqu'on aura massivement des masques pour tout le monde, ce qui est le cas dans un certain nombre de pays, en Corée du Sud, au Maroc et dans d'autres, lorsqu'on sera capable de tester massivement la population, on se posera la question de savoir s'il faut mettre en place le tracking.
Mais vous y êtes opposé, ou vous y êtes idéologiquement opposé, ou ça peut être une sortie pour sortir justement de, pour sortir de cette situation qui est éprouvante pour l'ensemble de la population?
La question, c'est que veut en faire le gouvernement? Vous voyez? Parce qu'en réalité, le tracking n'a qu'un seul intérêt. Il faut qu'il soit évidemment anonyme, c'est essentiel.
Et à durée limitée.
Il faut qu'il soit... Voilà. Non, mais à quoi ça sert? Le tracking, ça sert en réalité au début d'une épidémie ou au retour d'une épidémie pour pouvoir remonter une chaîne de contamination. Absolument. Voilà. Mais vous comprenez bien qu'avant de se poser cette question-là, il faut déjà savoir si nous sommes en situation... en nombre de masques et en nombre de tests, de pouvoir commencer un déconfinement. Moi, je vais vous dire ce que je ferai là tout de suite, pendant le confinement, tout de suite. Je testerai l'intégralité des gens qui travaillent. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a des gens qui travaillent qui sont actuellement porteurs du virus et qu'ils continuent à contaminer.
Vous pensez, Marine Le Pen, ou vous avez des informations ?
Mais je vais vous dire, une information publique que vous avez eue vous aussi. Un pilote d'Air France qu'on a envoyé en Chine pour aller chercher des masques est arrivé en Chine et a été testé positif au coronavirus. Voilà.
Merci Marine Le Pen.
Ça, c'est bon. Ça pour moi, c'est mon symbole, si je puis me permettre, qu'il faut à tout prix aujourd'hui tester d'abord les gens qui travaillent.
Merci Marine Le Pen.
Les gens
qui restent aujourd'hui en
activité.
Dans
les entreprises, les fonctionnaires, parce qu'on ne réussira pas le déconfinement si on ne met pas en confinement ceux qui aujourd'hui sont malades.
Aujourd'hui restent. Merci beaucoup Marine Le Pen de nous avoir répondu ce soir en direct sur Europe 1. Merci à vous.
Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 jusqu'à 20h avec vous, Nathalie Lévy.
Avec votre rappel des titres, Sébastien Krebs, c'est dans quelques secondes. Et puis le programme, quand même, je vous le livre, parce que Ariel Dombal sera avec nous dans un instant. Mais également Thomas Dutronc. Comment vivent-ils, Jarry aussi, comment vivent-ils ces artistes le confinement? Ils ont plein d'astuces, ils communiquent bien sûr avec le public, avec vous tous, par les réseaux sociaux. On aime ça. On va leur demander de nous raconter comment ils se sentent au 24e jour. C'est juste après le rappel des titres de Sébastien Krebs.
Dans un instant sur Europe 1, les infos à 19h30. Mais avant cela, on prend un temps d'avance, Nathalie Lévy, comme chaque soir avant 19h30. Et on s'intéresse à ce qui va se passer demain en France d'abord.
Bonsoir Jean-Pierre Montanet.
Bonsoir Nathalie.
Bienvenue à vous. Alors, il y a une question parmi tant d'autres, si je puis dire. Va-t-on vivre un été sans festival? Personne ne sait comment sera la situation sanitaire fin juin, début juillet. Pour les organisateurs, c'est le flou absolu et du coup, c'est beaucoup d'angoisse.
Oui, et le premier à jeter l'éponge est Ben Barbeau, patron du Hellfest, le festival de musique métal et de rock, qui devait se dérouler du 19 au 21 juin à Clisson, en Loire-Atlantique. 180 000 billets déjà vendus, mais le corona vient d'anéantir des mois de préparation et de programmation. Le montage des installations devait débuter mi-avril, en plein confinement. Pas sérieux, ont estimé les autorités, qui ont donc signé un arrêt interdisant ce rassemblement, ce qui permet aux organisateurs au moins de faire jouer les assurances. Hellfest annulé donc est reporté à 2021, tout comme le festival Jazz sous les pommiers de Coutances dans la Manche. Annulé aussi le festival électro Worldwide de Sète. En sursis, l'Art Rock à Saint-Brieuc, comme les Vieilles Charrues d'ailleurs, qui devaient rassembler près de 300 000 personnes à Carhaix dans le Finistère. Alors que le virus n'aura sans doute pas disparu, comment espérer réunir 70 000 spectateurs en toute sécurité par jour, mi-juillet? Cela montre son directeur Jérôme Tréorel, qui ne se fait plus beaucoup d'illusions, lui qui a déjà engagé pourtant 17 millions d'euros.
Aïe, 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 ça commence évidemment à faire mal. Certains font encore de la résistance. Ils n'ont pas complètement abandonné ni renoncé. Ils espèrent encore.
Exactement, Nathalie, c'est le cas des Nuits de Fourvière, hein, le rendez-vous des amateurs de jazz hein, dans le bel amphithéâtre romain. Son organisateur, Dominique Delorme, dit travailler à 100% pour ouvrir son festival du 2 juin au 31 juillet en espérant une décision sanitaire positive. Sinon, il sauvera les meubles avec d'autres dates et une programmation moins ronflante. Quant au festival d'Avignon, hein, qui vient juste de dévoiler son programme, son directeur se dit forcément très inquiet. Mais il veut encore y croire, il l'a dit sur Europe 1 dans le journal de la mi-journée.
Nous n'avons pas tout à fait perdu espoir. Je crois qu'il y a une faisabilité technique du festival jusqu'à la seconde quinzaine de mai. Au-delà, je pense que techniquement, non, ce ne sera pas possible.
Les corégies d'Orange, elles aussi, n'ont pas l'intention d'abdiquer. Il reste encore du temps, se rassure son patron Jean-Louis Grinda, qui attend une réponse du ministre de la Culture dans des délais raisonnables.
Alors justement, quel est le son de cloche du ministère pour tenter au moins de calmer les inquiétudes ?
Eh bien alors, Franck Riester, le ministre, a monté depuis lundi une cellule d'accompagnement déjà sollicitée par 320 festivals en France, des plus petits aux plus grands. J'ai eu le ministère au téléphone qui m'a indiqué que la culture n'avait pas le pouvoir d'interdire ou d'autoriser un festival. C'est le ministre de la Santé qui sait et qui décide donc. En tout cas, chaque événement est examiné au cas par cas en fonction des dates, du nombre d'artistes, du nombre de spectateurs, des conditions d'accueil du public pour se donner le plus de chances d'en annuler le moins possible.
Merci beaucoup Jean-Pierre Montanet. On croise les doigts hein, pour ça et puis pour le reste aussi. À demain Jean-Pierre.
À demain
dans le monde. Merci. Demain dans le monde, c'est Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir Nathalie.
On est en Iran ce soir. C'est là-bas que vous nous conduisez parce que c'est le premier pays à avoir décidé de lever son confinement. Et pourtant, l'épidémie est très loin sur place d'avoir été maîtrisée. Mais il lui faut absolument sauver une économie en ruine.
En fait, le président Hassan Rouhani a tout simplement jeté l'éponge parce qu'il était dans une situation parfaitement intenable, pris en tenaille entre l'extrême rigueur de l'embargo américain d'un côté et puis l'intransigeance de ses religieux conservateurs de l'autre. Il lui avait fallu d'ailleurs batailler ferme pour imposer des restrictions sur les pèlerinages dans les lieux saints du chiisme, qui ont été le vecteur de propagation de l'épidémie au niveau du pays et de la région. Mais ces mesures ont été prises trop tard, elles ont été mal appliquées et la maladie s'est propagée de manière exponentielle. Alors on n'arrive pas à avoir de chiffres vraiment crédibles, mais on sait que l'Iran est le principal foyer infectieux du Proche-Orient, que son système de santé est saturé et que les quelques livraisons d'aide médicale réalisées par l'Europe, France et Allemagne en tête, ne peuvent pas résoudre un drame d'une telle ampleur.
Le président Rouhani a pourtant demandé aux États-Unis la levée des sanctions, non ?
Oui, ou à défaut, la possibilité d'exporter une partie de son pétrole, au moins pendant l'épidémie, ce que Donald Trump lui a refusé. Puis il s'est tourné vers le Fonds monétaire international, le FMI, pour lui demander un prêt exceptionnel de 5 milliards de dollars, ce qui est la première fois pour l'Iran depuis 1960. Là encore, veto de la Maison Blanche et donc totalement à court de solution. Et malgré l'énorme risque sanitaire encouru, eh bien, il a déclaré la levée progressive du confinement pour tenter de sauver ce qui reste de tissu économique et en premier lieu les petits commerces, le bazar, les artisans, tous ces travailleurs indépendants qui représentent la grande majorité de la population active en Iran et qui financièrement ne peuvent plus tenir après 2 semaines de confinement. Des aides de l'État, ils n'en auront pas, ils le savent et dans les faits, ils avaient déjà tous rouvert leurs boutiques ou leurs ateliers. Le confinement était déjà très largement une fiction officielle.
Merci beaucoup Didier François. Un autre pays demain avec vous.
19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Et vos titres, Sébastien Krebs.
Emmanuel Macron remet l'hydroxychloroquine au devant de la scène. Rencontre avec des chercheurs ce matin et cet après-midi avec le controversé professeur Didier Raoult à Marseille. Selon le journal Les Échos, le professeur lui a présenté les résultats d'une nouvelle étude évaluant l'efficacité du traitement à 91%. Le président doit s'exprimer lundi à 20h. La France, confrontée à sa pire récession depuis 1945, va doubler son plan d'urgence pour l'économie à 100 milliards d'euros, annonce Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui sera l'invité de la matinale d'Europe 1 demain à 8h15. Ce soir, les Européens reprennent leurs négociations. Les États-Unis ont enregistré plus de 6,5 millions de chômeurs supplémentaires en seulement une semaine. Le bilan mondial du virus dépasse les 90 000 morts en France. Nouveau bilan, 12 210 décès depuis le 1er mars. Bilan annoncé à l'instant par le ministère de la Santé. Plus de 30 000 personnes toujours hospitalisées. Mais pour la première fois, le nombre de patients en réanimation n'augmente que très faiblement. 82 de plus aujourd'hui. Les hôpitaux d'Île-de-France, qui sont toujours saturés, vont organiser demain de nouveaux transferts de malades vers la région Nouvelle-Aquitaine. Et puis eux sont partis se confiner, mais ailleurs, bien plus loin, dans l'espace. Un astronaute américain et deux cosmonautes russes ont décollé ce matin, comme prévu, en direction de la Station Spatiale Internationale. Ils ont dû dire adieu à leur famille par visioconférence à cause de la pandémie.
Merci Sébastien Krebs. L'info revient demain à 18h avec vous.
Bon, bah écoutez, j'espère que vous êtes là, mais j'espère que vous serez là demain, surtout à 18h. Anissa, on lève la tête et on apprécie ce qu'on voit.
Oui, effectivement, il fait très beau. Demain, c'est encore une belle journée. C'est même presque une journée d'été, hein, demain. Demain matin, il n'y a que sur le Languedoc-Roussillon que les nuages seront présents avec des petites entrées maritimes sur le golfe du Lion. Dans l'après-midi, quelques gouttes à prévoir sur les reliefs des Pyrénées, mais uniquement en altitude avec un petit coup de tonnerre. Mais vraiment, ça ne concerne que les reliefs partout ailleurs. C'est une très grande et belle journée ensoleillée. Alors côté température, nous aurons 4 à 11 degrés demain matin, jusqu'à 13 degrés au Havre, 12 degrés pour Paris le matin, et puis dans l'après-midi ça va grimper. Alors les températures restent toujours très fraîches demain en bord de mer, avec seulement 19 degrés pour Nice, 20 degrés à Marseille, 19 également pour Dunkerque, et puis dans l'après-midi ça grimpe à Dijon avec 25 degrés, comme à Toulouse, 26 à Lyon et à Metz, 27 à Limoges et à Paris, et 28 pour Auxerre demain après-midi. Et votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy, jusqu'à 20h. Et dans cette demi-heure, ce soir, comme tous les jeudis, on a pris l'habitude pendant le confinement d'ouvrir notre antenne à nos artistes, comédiens, humoristes, chanteurs. Ils sont là et ils nous racontent comment ils vivent cette période de confinement.
J'aime plus Paris, non mais on se prend pour qui ? Je vois trop de gens, je me fous de leur vie.
Bonsoir Thomas Dutron.
Bonsoir.
Ah, on adore. Vous aimez encore Paris ou
c'est
pas
drôle.
Oui, mais dans l'état actuel des choses.
C'est-à-dire qu'à l'époque, quand j'ai fait cette chanson, c'était un peu, j'exagérais mon sentiment un peu envers Paris, quoi. Puis je sais pas, j'avais 33 ans, donc j'étais jeune. Mais là, depuis, mon sentiment envers Paris, c'est effectivement augmenté, parce qu'il y a trop de monde, il y a trop de gens énervés, il y a trop de violence, il y a un truc un peu, voilà. Donc une fois qu'on a fait le tour des sorties, des copains, des trucs, je trouve qu'on a besoin de gens un peu plus cool, un peu plus paisibles, plus tranquilles, quoi. Donc,
et d'espace. Alors vous vivez où, vous, votre confinement, Thomas Dutron?
Et du coup, bah alors voilà, je fais partie des 17% de bobos parisiens vénards. Je suis parti le lundi, le lendemain des élections, en fait, je suis parti à la campagne, en fait, parce que je voulais pas non plus. Je serais bien allé en Corse, mais c'était un peu compliqué. Je voulais pas laisser ma mère non plus, si jamais il y avait un souci, un truc, et puis et puis prendre l'avion du jour au lendemain, c'était un peu compliqué. Donc voilà, j'ai trouvé un. Je suis à la campagne.
Donc vous êtes au vert. Vous êtes au vert et vous avez du réseau.
Ça doit être très. J'ai de la chance, quoi. Voilà, c'est sûr que j'ai beaucoup de chance. Je pense aux gens enfermés à Paris. Enfin, je pense.
Mais alors justement, pour partager un peu avec évidemment les Français qui sont confinés et peut-être souvent aussi dans des petits espaces, eh ben vous donnez de votre temps à travers les réseaux sociaux et vous donnez même des cours de guitare. Je sais parce que je peux le dire, mon cousin en a bénéficié. Bah oui. Vous donnez des cours de guitare et ça fonctionne. C'est tous les soirs en live sur Facebook.
Alors c'est tous les matins, je fais le matin.
Et le live le soir.
Alors non, c'est le matin, tous les matins à 10h43. Après, par contre, on peut les revoir, donc les gens peuvent le revoir, revoient les cours quand ils veulent. En fait, il y a beaucoup de visions de gens qui le regardent tout à d'autres moments. Mais ouais, j'ai eu envie de faire ça. Voilà, tous les jours depuis. Je me suis jamais autant réveillé avec un réveil que depuis le confinement, parce que je mets le réveil pour quand même me chauffer la voix, les doigts, savoir un peu ce que je fais, parce que il faut tous les jours prévoir un petit truc. En fait,
on peut aussi vous poser des questions pendant la séance?
Oui, alors on peut, parce que je regarde les commentaires, malheureusement c'est un peu petit. Alors, là où je suis, il y a très peu de réseau, c'est un peu compliqué. Du coup, sur un iPad, j'avais un petit iPad qui permettait de voir mieux les commentaires. Enfin non, en fait, je pensais qu'on allait voir les commentaires plus gros, mais on ne les voit pas très gros. Et quand je joue, je lis en même temps les commentaires, ça me déconcentre trop. Je réagis un peu au début, à la fin, et puis il y a des gens qui regardent un peu les questions qu'on me pose pour essayer de revenir dessus. C'est un peu compliqué de donner des cours comme ça dans l'absolu, c'est que je ne peux pas donner des cours pour grands débutants, je ne peux pas non plus donner des cours de choses qui, moi, vont me... complètement. Oui. J'essaie de faire un truc intermédiaire, mais ça me donne l'occasion de travailler des chansons, une chanson nouvelle tous les jours que je connais pas. Aucun truc à moi. Pour l'instant, je fais que des trucs que j'apprends.
Donc c'est un peu à l'aveugle. C'est vraiment une aventure, quoi.
Ouais, ça m'amuse. Je me regarde. Demain, là, j'ai annoncé. Donc, je me suis dit, je vais l'annoncer comme ça. J'ai pas le choix.
Oui, oui.
Je vais faire une chanson de Lucio Battisti qui s'appelle Pensoate, qui est une chanson italienne, donc années 70. Et elle est géniale parce que c'est la chanson italienne qui tue dans le genre romantique où ça explose, c'est un truc de fou. C'est genre, c'est comme. Donc j'ai regardé des Richard Cocciante aussi, des trucs. Un petit détour par la chanson italienne. Et ça va être
d'accord.
Cool.
Alors, du coup. Donc ça, ce sont les lives sur Facebook avec ses cours de guitare.
Ouais.
Juste, on peut peut-être entendre un petit extrait qu'on a, nous, c'est tous les jours, donc sur Facebook. Je vous propose aux auditeurs là, de vous familiariser avec la guitare de Thomas Dutronc. Écoutons quelques secondes.
Première chose, c'est le premier cours, il faut que je sois aussi très clair avec vous. La première chose à faire pour apprendre à jouer de la guitare, c'est d'avoir une guitare. Ça, c'est le premier truc.
En tout cas, si vous êtes toujours avec moi, je vais annoncer la sortie de votre album. Ce sera le 5 juin. Ça s'appelle Frenchie.
On est pas sûr, du coup.
C'est la question que j'allais vous poser.
On attend de savoir ce que va dire Macron lundi. On sait pas trop parce que, en ce moment, on peut précommander le disque et tout ça, mais c'est pas considéré comme un truc de première nécessité, ce que je comprends quand même, mais même si la musique c'est important. Et du coup, c'est pas livré par Amazon, tout ça. Enfin bon, de toute façon, il y a des choses tellement plus graves, on se dit,
Thomas Dutronc, juste, je vous embête encore deux secondes, juste des nouvelles de vos parents, évidemment, parce qu'on connaît la santé fragile de votre maman, et des nouvelles de votre papa aussi, tous les deux, comment vont-ils?
Écoutez, ils sont inquiets tous les deux, ils ont peur d'attraper le truc, forcément, parce que là, mon père, lui, il dit lui, ça fait 20 ans qu'il est confiné déjà, donc ça va, il est dans sa maison encore, soit tranquille, mais bon, il s'inquiète quand même parce qu'il a vraiment le profil fumeur, cardiaque, tension, il a tous les mauvais plans. Et ma mère, elle est toute seule à Paris, la pauvre, c'est pas toujours facile, et là, elle nous écoute parce qu'elle a entendu. Elle a entendu que je passais, alors du coup j'ai vu un texto, elle m'a dit « à quelle heure tu passes ?» Je lui ai dit « 20h », j'avais un peu mal compris. Et là je lui ai dit « non, en fait c'est dans 3 minutes ». Elle m'a dit « oui, c'est bon, j'ai entendu ». Donc alors maman, tu nous entends, je t'embrasse très fort et je t'aime. Et vous aussi, vous aimez ma maman, vous pouvez l'aider ou pas?
Mais oui, on aime beaucoup, évidemment, on aime votre maman, on aime votre papa, on vous aime vous. Et on était ravis de pouvoir partager ce petit moment finalement, comme ça, un peu familier, grâce à vous. Merci, on vous embrasse Françoise Hardy. On vous souhaite évidemment une très bonne santé, on embrasse votre père. Et vous, continuez à donner des cours de guitare parce que ça fonctionne très bien. Merci beaucoup Thomas Dutronc de nous avoir accordé ces minutes sur Europe 1. Merci beaucoup. On est en ligne aussi avec Jules ce soir. Bonsoir Jules.
Bonsoir.
Bienvenue sur Europe 1. Évidemment, on vous connaît, dessinateur, ô combien apprécié. Vous avez redonné vie, à votre quartier en musique, malgré les départs, l'exode, entre guillemets, des Parisiens et le confinement. Comment vous faites? Comment ça se passe concrètement?
Oui, parce que, en fait, moi, j'ai du mal à dessiner, parce que j'avais plein d'albums en route, un dessin animé que je devais finir. Et en même temps, j'ai les enfants, donc ça fait un mois que je suis entassé avec mes fillettes. Et donc là, y a pas moyen de travailler. Alors, on s'est rendu compte qu'au moment des applaudissements à 20h, où les rares Parisiens qui étaient quand même restés un peu par conscience dans le quartier, qui ne s'étaient pas sauvés dans leur maison de campagne, justement, avaient envie un peu de se compter et de remettre un petit peu d'ambiance dans ce côté un peu sépulcral qu'il pouvait y avoir le soir. Au début, il faisait nuit. Maintenant, à 20h, il fait jour. Et du coup, on a lancé cette habitude de sortir la grosse sono qui, en général, me valait surtout des plaintes du voisinage. Et là, tout d'un coup, tout le monde demande maintenant ce rendez-vous. Et alors, une fois que les applaudissements commencent à se tarir, j'envoie la chanson du jour et tout le monde sort au balcon. Il y a toutes les petites têtes, notamment, il y a des couples de gens un peu âgés qui habitent dans les derniers étages. Et on voit les Vélux qui se lèvent et des têtes comme les marmottes qui sortent. Vous voyez un peu les Lemmings.
Mais c'est génial. Attendez, mais moi, je ne veux pas de limite à ce Covid guetta. Tiens, écoutons. Génial, génial. Mais il faut que ça fasse des petits.
y a un effet de résonance. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que plein de gens mettent sur leurs réseaux sociaux ensuite la chanson du jour, et donc cela passe. Et en fin de compte, le seul petit problème, c'est qu'on est en train de créer un micro-cluster au pied de l'immeuble, parce que les rues adjacentes, en fait, ils entendent de la musique, ils ne savent pas d'où ça vient. Et donc, en fait, les gens en profitent pour faire leur balade, et ce qui fait qu'à 20h, il y a de plus en plus de monde en bas sur le trottoir. Il va falloir disperser les gens.
Vous n'allez pas vous faire des amis, là, faites attention. Mais en tout cas, c'est génial, il faut que ça fasse des petits dans d'autres arrondissements de Paris. Alors, ce ne sera pas avec Covid Guetta, malheureusement, avec vous, Jules. Mais en tout cas, on adore l'idée. Vous allez pouvoir, vous avez découvert une nouvelle corde à votre arc, si je puis dire.
Voilà, merci. Voilà, j'étais pas encore complètement musicien, mais bon, en attendant de faire d'autres albums, ça fonctionnera bien.
Merci beaucoup, Jules, de nous avoir fait partager ce moment avec vous. On se retrouve, nous, dans un instant avec plein d'autres artistes et vous allez voir plein de surprises.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h avec vous, Nathalie Lévy. Et comme chaque jeudi, nous donnons la parole aux artistes, chanteurs, comédiens, humoristes. Ils sont là et ils partagent leur confinement avec nous jusqu'à 20h.
Live, c'est votre titre. Arielle Dombasle, bonsoir.
Bonsoir.
Actrice et chanteuse tellement atypique. Et dans cette période aussi très atypique, Arielle Dombasle, on est heureux de vous avoir sur Europe 1. Vous êtes lancée quand même dans une expérience avec ces vidéos de Paris vide, de ces rues vides, hein.
Oui, c'est-à-dire que nous, les artistes, évidemment, on a des vies moins réglées que la plupart des gens. Et l'idée de se retrouver comme ça, enfermée, ça fait aussi souffrir, ça nous fait souffrir dans notre art, parce qu'on ne peut plus se voir et plus faire de musique ensemble. Alors, moi, c'est vrai que l'album Empire,
oui, on va y
qui
venir.
Est sorti ces jours-ci, voilà, voilà. Je ne peux pas aller au concert, faire des répétitions avec mes musiciens. Et il se trouve qu'étrangement, ce titre, Just Come Back Alive, qui a été composé et écrit par Nicolas Kerr, qui a fait l'ensemble de l'album, était un peu prophétique, puisque c'est cette prière à laquelle maintenant nous sommes tous soumis et à laquelle nous faisons chacun, c'est revenez vivant. Voilà. Alors nous faisons tous ces efforts d'enfermement. Et nous sommes dociles parce que c'est une cause évidemment qui nous dépasse,
Bien sûr. Alors Arielle Dombasle, donc ça veut dire que l'album il sort sur Internet, hein, c'est ça, cet album que tu as écrit avec Nicolas Kerr, il sort quand même sur Internet.
Voilà. Alors Just Come Back Alive, vous pouvez déjà voir le clip vidéo sur YouTube et puis écouter Just Come Back Alive sur Deezer, Spotify, YouTube, etc. Ouais. Sur les plateformes.
Vidéos avec cette vision si atypique que vous avez, Arielle Dombasle, si singulière encore une fois, comment vous procédez régulièrement à cela?
Oh ben, c'est-à-dire que c'est toujours moi qui fait mes clips, hein. J'ai aussi toute cette carrière, peut-être un peu plus underground de moi, cinéaste. Donc pour la première fois, on peut voir mon film Alien Crystal Palace en VOD. Il sortait également, sur les étagères des Fnac, mais les Fnac sont fermées. Et voilà, donc Alien Crystal Palace, mon film, est aussi comme ça, enfermé comme nous tous.
Ouais. Et alors comment vous vivez cet enfermement, Arielle Dombasle, au quotidien, 24e jour aujourd'hui? Comment vous gardez le moral?
Mais je continue à faire mes petites vidéos et à travailler. Vous voyez, je travaille, je fais de la musique tous les jours, j'en écoute, je répète avant mes concerts dès que le déconfinement aura lieu. Et puis, j'apprends, comme la plupart des gens, à entrer dans une autre temporalité complètement différente. C'est-à-dire que il y a des tas de choses que je ne faisais pas et je, comme tout le monde, je me mets à les faire. Mais il faut
par exemple,
être dans
par exemple, Ariel Dombal. Par exemple, et c'est quoi? C'est le quotidien vraiment basique,
voilà,
c'est ça?
Voilà, c'est-à-dire c'est le quotidien basique, c'est aller à Franprix et au market et acheter les fruits et les légumes, et c'est sortir pour ça, sortir très encadré par le temps, sortir avec notre protocole, enfin notre dérogation, et rester dans cet enfermement qui est très pénible. Les animaux, enfin nous, des animaux de grande vitesse et des animaux tout court que nous sommes, on a besoin d'aller, venir, courir, c'est quelque chose de très oppressant. Mais il faut le prendre, il faut se dire, eh bien, soyons créatifs, trouvons des plaisirs quotidiens, des rituels qui nous épanouissent, qui nous font plaisir. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le vivre.
Ariel Dombal, votre premier geste ou votre premier contact avec l'extérieur en déconfinement, votre première envie, vous y pensez déjà, ce sera quoi?
Oui, eh bien, ça sera vite retrouver mes musiciens, me remettre à répéter en studio, faire de la musique ensemble, et puis après aussi courir dans les jardins, parce que les jardins qui sont fermés, les jardins de Paris, ça c'est navrant de plus pouvoir voir le printemps, les parcs, ça me manque immensément de voir la nature, c'est le plus beau moment de l'année où il y a toute cette nature qui fleurit, ça me manque beaucoup de pas y être, de ne pas profiter de cela. Ouais. Et puis nager, parce que j'adore nager et là je ne peux plus faire. Et puis embrasser mes amis et refaire mon métier, c'est-à-dire des films, chanter, faire des répétitions sur scène. Ça manque.
Eh oui, bien sûr. Oui. Mais alors, ça vous manque. On va écouter un autre extrait. Merci beaucoup, oui. Ariel Dombal. C'est Just Come Back Alive. C'est ce titre avec ce Paris désert, ce Paris confiné, ces images que vous tournez pour l'illustrer.
Oui.
Voilà, comme Just Come Back Alive, c'est Ariel Dombal qui nous a accompagnés et très inspiré en ces temps de confinement avec ses vidéos dans ce Paris désert. Merci Ariel Dombal. On va retrouver Jarry maintenant. Tout à fait autre chose, autre tonalité. Salut Jarry, bonsoir. Bienvenue bonsoir, sur Europe 1.
Une autre tonalité.
Ouais, mais complètement, mais c'est ça qu'on aime, c'est la variété, évidemment. Tous ces univers qui se rencontrent sur Europe 1 dans cette période de confinement. Alors vous êtes énergique, vous débordez de tout, d'envie, de rire, de divertir pendant ce confinement. Tous les soirs, d'ailleurs. C'est tous les soirs, hein. Le rendez-vous est vraiment au cordeau. C'est pendant le confinement avec votre Jarry Show, avec même des sketchs avec vos enfants. Tout le monde est mis à contribution. Racontez-nous un peu comment vous fonctionnez.
Ben, en fait, les deux premiers jours de confinement, je me suis dit, si je ne fais rien, il va y avoir un drame. C'est vrai que je suis plutôt d'une nature à avoir le positif. Et je me suis dit, il faut qu'on continue à rigoler, à s'amuser. Et puis surtout aussi parce que les gens, au tout début du confinement, refusaient le confinement. Donc il y avait beaucoup de gens encore dehors. Et donc je me suis dit, s'ils ont suffisamment de matière à rester chez eux, peut-être que si j'arrive à les faire rire, ils auront moins l'envie d'aller dehors. Donc voilà. Et puis j'avais envie de garder un contact avec les gens.
Bah, bien sûr, on en écoute un extrait pour voir, pour ceux qui n'y sont pas encore allés, mais il y en a peu, pour voir ce que ça donne.
Bon, qu'est-ce que tu veux faire, mon cœur?
Un dessin animé.
Ah non, mon cœur, c'est un dessin animé par semaine.
Mais c'est un dessin animé.
Mais tu veux quoi comme dessin animé?
Comme le pompier.
Non, non, non.
Mais papa, tu sais?
Non.
On peut voir un dessin animé tous les jours?
Non, pas tous les jours, non. Et toi, ma chérie, tu veux faire quoi?
Comment on fait les bébés?
Quoi?
Comment on fait les bébés?
Allez, on va regarder un dessin animé, d'accord? Voilà, allez, c'est superbe.
Alors, c'est tous les soirs à 18h30, donc là, vous venez d'arrêter, en fait, pour nous retrouver quasiment.
Ben exactement, là, j'étais avec Augustine Galliana, et puis maintenant, je suis avec vous, c'est ça qui est
bon,
bien.
Bon, c'est sympa. Non, mais Nathalie, les enfants, vous êtes un tortionnaire, parce qu'il faut les faire bosser, vous les faites répéter, ou c'est de l'impro total?
Alors, en fait, pas du tout. En fait, l'idée est née... vraiment par le plus grand des hasards, c'est-à-dire que j'allais faire une photo avec eux, une petite vidéo, et ils ont commencé à sortir des blagues comme ça, et je me suis dit, tiens, je vais filmer des moments de mon quotidien, et puis par moments, je leur dis ça ou réponds ça, mais ils adorent ça. Ils adorent ça. Et puis,
bon, ça va alors.
Moi, ça me permet de partager un petit peu mon métier avec mes enfants, je trouve ça assez fabuleux.
C'est ça qui est génial, c'est effectivement cette proximité. Je crois qu'Anissa a une question pour vous, Jari.
Alors c'était plus une réflexion, mais c'est vrai que je vous suis, Jari, et du coup, je voulais dire que j'étais pas tout à fait d'accord avec vos enfants qui sont un peu durs avec vous, ils vous trouvent pas rigolo. Vous l'êtes, Jari. Ce sont des juges intraitables, hein, quand même. Hein.
C'est ça. Non, mais j'adore parce qu'à chaque fois, je sais pas ce qu'ils vont répondre. Par exemple, ça fait partie des choses. Là, dans la dernière vidéo que j'ai postée où je leur propose de faire du sport, je leur demande pourquoi papa fait du sport. Ils disent parce qu'il a un gros ventre.
Et la ça, vérité, hein, les enfants. Et oui, voilà.
Mais
ça trompe
temps,
pas.
C'est bien qu'il y ait des gens qui vous remettent.
Ouais, les pendules à l'heure parfois. Alors vous recevez tout le monde, hein, Guillaume Play, Camille Lelouch, Kev Adams. Et là, on va écouter un extrait avec Alessandra Sublet dans votre Jari Show. Attention,
c'est parti. Elle apparaît. Connexion.
Ah, allô.
Comment ça va?
Ça va, mon Jari, je suis contente de te voir.
T'es belle, mais je pensais, tu vois, que t'allais être plus marquée, ridée, un petit peu, que la vie t'aurait pas épargnée, et en fait, non.
Ouais, c'est ça.
Moi aussi.
Attends, j'ai un petit accessoire.
C'est pas vrai?
Bien sûr.
Oh, vous êtes vache, Jari. Donc, c'est une caresse, une claque. Une claque, une caresse avec Jari. Hein. C'est un peu ça, c'est
en
vrai.
Fait, oui, et puis vous savez, j'avais envie que les gens ils nous rencontrent tels qu'on est. C'est-à-dire, j'avais pas envie de parler de notre travail. J'avais pas envie qu'on raconte nos spectacles, puisqu'on le fait toute l'année. J'avais envie que les gens ils nous voient chez nous sur des sujets qui concernent tout le monde, quoi.
Ouais, bah très bien. Donc, c'est réussi, ça prend très bien, ça fonctionne très bien.
Vous êtes des amours.
Une chaîne YouTube Jari, c'est là, c'est maintenant.
Ça y est, je l'ai créé il y a 2 semaines, au début du confinement.
Et oui.
Pour que les gens, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient non, on travaille encore.
Ouais.
Oui, puis ça permet aussi aux gens de pouvoir voir et revoir. Et puis moi, ça me permet aussi d'avoir un ton en étant totalement libre. Alors moi, je suis nul, je sais juste faire copier-coller, donc j'apprends. À me servir d'un ordinateur.
Ouais. Très bien, ça va. Si vous avez les balbutiements, ça va. Bon, Jari, vous vivez bien ce confinement. A priori, j'entends votre voix et vous êtes, c'est vrai, plutôt une nature. Donc, vous en sortez ou.
Honnêtement, il y a des jours où c'est compliqué parce que, en fait, vous savez, ce qui me rend fou, c'est le fait de ne pas avoir d'informations. J'ai beaucoup de mal à comprendre qu'on n'ait pas d'informations, que le gouvernement ne nous donne pas d'informations. Là, on sait qu'on est confiné le 15. Là, le président va s'exprimer seulement lundi, mais d'ici là, on n'a aucune information, on ne sait rien. Alors, on prévoit, on anticipe, mais je trouve ça dingue qu'en 2020, on soit pas capable de mieux communiquer, sans déconner. Ça, je trouve ça triste, parce que ça nous met en attente et en stress. Et franchement, on a autre chose à faire que ça.
Vous doutez aujourd'hui de ceux qui nous gouvernent, alors ?
Je doute aujourd'hui de pourquoi, à l'époque où on a l'information, dès qu'on ouvre son téléphone, on ne communique pas en temps de crise. Pour moi, c'est angoissant.
Ça, c'est angoissant.
Mais
je doute de tout
le monde, vous savez. Ouais.
Ça, c'est le moment où Jari reprend son sérieux.
Parce que les gens qui me parlent sur Internet ou sur les réseaux sociaux, ils me disent « Est-ce que vous avez des informations ?» Parce qu'ils pensent que nous, le fait qu'on ait un peu de notoriété, on a des informations. Mais on n'a pas d'informations. Personne n'en a. Et du coup, c'est pour ça que je m'inquiète. Ouais. Nos dirigeants ont-ils des informations ?
Alors, on en saura plus évidemment lundi. Et puis nous, on informe chaque jour, évidemment. Et on fait pédagogie aussi pour les auditeurs et pour essayer d'être au plus proche, évidemment, de vous tous. Jari, on sait déjà qui sera demain en face de vous ? Via FaceTime.
Alors oui, demain je reçois un joueur de tennis suisse qui est classé, qui s'appelle Stanislas Wawrinka, mais qui est exactement qui joue en duo avec Roger Federer.
Exactement.
Vous voyez, je reçois de tout.
Eh ben, très bien, c'est très éclectique. Merci beaucoup, Jarry. Merci. Alors, voilà, vous l'avez compris, pour ce pays, une bonne tranche de rire. Hein. Écoutez à 18h30 le Jarry Show. Merci à vous.
Des bisous à vous, prenez soin de vous tous.
Merci, pareillement. On était content de vous entendre, vous tous, ce soir, les artistes. Merci à Jarry, à sa bonne humeur, à vous tous d'ailleurs, de nous avoir répondu présent. Écoutez, ce sont les applaudissements qu'on aime tant et qu'on est évidemment content d'entendre le soir un peu plus fort à chaque fois. Il est donc pratiquement 20h. Le soutien aux soignants, restez chez vous. Écoutez Europe 1, on sera là demain soir pour votre grand journal du soir à 18h jusqu'à 20h en direct avec de l'info, des échanges et aussi de la bonne humeur parce qu'on en a tellement besoin, n'est-ce pas Anissa ? Salut à tous, merci beaucoup.
Merci Nathalie.
Et à demain, très belle soirée.
À demain, dès 18h sur Europe 1. Très belle soirée.